pour y rester. Yuzusushi.ca.
Boulevard.
Cet automne, Boulevard vous parle un peu plus.
Mais YOLO!
Non, vous abandonne pas non plus sur le rock.
C'est ça, rock.
Un genre de meilleur des deux mondes.
CV, Marceau le midi, Ravel dans le retour, Marceau le soir, sans oublier le Rock and Chill, Boulevard du Rock, et le volume à planche. Boulevard 102.1.
Tes sujets, ton rock, ta radio.
Marceau le soir, présenté par Voyage Aquaterra Lévis, Québec. Visitez la nouvelle agence de Québec. Maintenant, deux adresses pour vous servir, Boulevard Bastien à Québec et Avenue Taniata à Lévis.
Marceau le soir, la meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau le soir.
Bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1 Québec, en espérant que vous ayez passé une belle journée. On va certainement passer un excellent 60 minutes. Je vous en parlais sur l'heure du midi. Mon invité de ce soir est un invité qui n'a pas disparu, non, dans les dernières années. Il est toujours là, il est toujours en place. Et il a décidé dans les dernières années de prendre un break, prendre une pause bien méritée et par la suite, ben, d'essayer de revenir progressivement et par la suite de revenir progressivement en force. Et j'ai le plaisir, c'est un honneur puisque c'est un de mes humoristes préférés quand il était actif. J'ai le plaisir de vous le présenter ce soir. Son nom, c'est Michel Mambara. Salut Michel!
Salut Yannick Marceau. Bonjour, bonjour. Juste en passant, là, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, c'est comme faire l'amour. Hein. Je suis tout énervé, hein? Si j'ai une fille maladroite, tu me comprendras.
Oui, c'est ça. Ben, tu sais, je te dis d'entrée de jeu, sans inquiétude, là, t'es pas mon genre, fait que ça se peut pas que ça se peut pas qu'il se passe quelque chose.
Attends. Même quand j'ai fait mon show, il y a trop de blocs, c'était pas le genre déjà, mais ils ont aimé ça, là.
Ouais,
c'est comme
ouais.
J'ai dit à One Night Stand, mais j'ai pas rappelé la fille, là.
Ben, ouais, exact.
Oui, oui, oui. C'est quoi, là? Ça, ça s'est bien passé. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bon, là, mais il est parti.
Voilà. Oh, Lynn. Voilà. Oh, c'est l'effet que tu fais. Michel, d'entrée de jeu, t'es un gars qui a habité à Québec pendant plusieurs années.
Ouais, 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 ben, j'ai immigré à Neva, à Québec, en juillet 90, là. Fait que c'est pour ça que je me dis, j'étais un gars de Québec. Parce que je peux comparer au Montréal. Je pense que j'aurais même pas fait l'humour si j'avais immigré ailleurs à Montréal. J'ai fait mon secondaire 5 là-bas, comme toi. On s'est déparé Cardinal Roy, DG Primoirou, Université Laval. Puis là, j'ai déménagé quand j'ai fait Juste pour rire. Je m'en fais d'abord. Le comédien n'existait pas encore dans ce temps-là.
Ouais. Au cégep, t'as fait quoi?
Et j'ai commencé en sciences pures.
Ouais.
Parce que j'étais un bon africain, de bonnes notes. Après ça, j'ai changé à lettres et communication. Là. Et d'ailleurs, il y a une chose que je propose, que j'ai joué une pièce de Hosanna de Michel Tremblay dans ce temps-là. Puis là, j'ai une piquée pour le théâtre. J'ai commencé à Sciences Pures. Puis là, je me suis fait cracher par des Québécois à Sciences Pures. Tu sais, c'est étudié comme en Afrique. Hein.
Ouais.
À Sciences Pures, c'est pas bon. Tu sais, les cégeps, c'est pas les Conax. Tu sais, à Sciences Pures, c'est étudié. Après ça, j'ai été avec deux au salon qui m'ont appris à fumer du pot sur moi.
À l'Université Laval.
À l'université, j'étais en théâtre.
À l'université, tu étais en théâtre.
Pendant que, okay. Oui, en théâtre. Puis pendant que j'étais en théâtre, en 96, je me suis retrouvé à faire le gala Juste pour rire.
OK. Puis à ce moment-là, tu t'intéressais déjà à l'humour depuis déjà un certain temps?
Tu sais qu'à l'université, là-bas, il y a la Fédération universelle de l'humour qui avait été créée par François Morancy et Jean-Michel Anctil, et même leur général à ce moment-là, Marc Boilard. C'est celui qui faisait ça. T'sais, ils avaient fermé la Fédération universelle de l'humour. Puis ils sont partis à Montréal, on a continué à se fédérer, puis on invitait des humoristes pendant un festival de science et génie.
OK.
Il y avait été, puis là, c'est une jeune science qui payait les humoristes, puis il y avait un concours de nouveaux humoristes, puis on invitait l'évêque Turcotte, quand il était vivant, de manière, on invitait Anthony Cavana, puis on faisait leur première partie. Puis là, j'ai fait un concours, ce que j'ai fait, mon première fois, je fais le numéro, il y a trop de blancs au Québec. Je le fais au science et génie. Puis là, je m'en vais faire les auditions à Montréal avec ton numéro. Boum, je me retrouve au gala devant des chats, tout ça. Tout ce capoté. Je suis à l'université, là, à Laval.
OK. Mais t'as jamais fait l'école de l'humour à Montréal? Là,
Non. Après ça, j'ai dit François avant qui était professeur à l'école de l'humour. T'sais, je les voyais, les autres qui payaient 7000 pièces, là. Mais moi, j'ai fait l'université. Puis l'école aussi, c'était les lundis au Dagobert.
Oui, exact.
Avec Mario Grenier. Puis, moi, je me rappelle d'ailleurs, la première fois, il me donne la chance de faire un show. C'est au lundi, aïe, aïe, c'est quelque chose. Après le show, il me donne 125 pièces. Pourquoi? de l'argent en plus. J'ai capoté. Je me sentais riche et célèbre. C'est bon, j'avais tout ça. C'est étudiant pour le fun. Puis les gens m'ont rire. Ah ouais, puis là, on me donne de l'argent en plus. Aïe, aïe, aïe.
Mais à quoi tu, Michel Mambara, à quoi tu attribuais ton succès très rapide? Là, parce que là, tu étais à l'université, ça semble avoir bien fonctionné lorsque tu faisais les premières parties d'humoristes qui étaient quand même bien connus à l'époque. Par la suite, tu arrives au Dagobert, on te connaît pas, ça fonctionne bien. Waouh, Michel Mambara, c'est le fun d'entendre, on rit, on s'amuse. À quoi tu attribues ton succès? Puis comment tu as fait pour bien comprendre l'humour des Québécois? Parce que quand on parle avec, exemple, un Français de France, ils nous disent « Ah, quand j'arrive au Québec, il faut que j'adapte l'humour aux Québécois. » Quand on parle à un Québécois qui s'en va faire des spectacles en France, il faut qu'il s'adapte
excellente
aussi.
Question. Je me souviens, secondaire 5, les gens, ils font des jokes. Je comprends rien, je comprends pas l'accent, mais je sais quand c'est le temps de rire. À la fin, mon rire! Mario Jean, là, quand il faisait son Tigui Baudou, là, je comprenais rien, mais j'aimais le rythme de au départ. Puis là, je me tiens avec des gens, tu sais, quand même, mes amis qui... Et là, il me fait des jokes sur les Noirs, puis j'ai ri. Puis il y a même un gars haïtien qui était déménagé à Québec. « Hey, tu te laisses faire. » Ben non, il parle pas de moi, là, tu sais. C'est parce que même en Afrique, on se moquait des gens. Puis il me dit, « Michel, là, t'en as pas de jokes sur les Blancs. » Ben non, nous autres, en Afrique, ça nous intéresse pas. Puis on peut pas rire des plus faibles que nous. En fait, c'est... Ah, merci, c'est la joker. Puis, étonnamment, tu poses ces questions-là. Je travaille à y répondre. C'est comme... Je me tiens avec des gens, je fais des gags avec mes amis québécois. Et le premier, vraiment, le premier monologue, je pourrais dire, il s'est retrouvé au Gala Juste pour rire. Et le fait de dire l'anniversaire là-bas, puis non, le monde créatif de Québec. Ça, il y a quelque chose qu'on dit... En fait, on cherche. C'est le monde, celui qui n'a pas de cheveux, comment il s'appelle, là, qui fait des mises en scène extraordinaires. À un moment donné, qui avait dit attaquer les Noirs et les Autochtones. Comment il s'appelle?
Eh, je ne m'en rappelle pas.
Non, le metteur en scène bien connu du Québec. Ça, les cheveux, là. Ici, les galades. Tu vas savoir, tout le monde, on sait de qui je parle, parce que je viens de voir en blanc, là, les trop de blanc au Québec. Tu sais, il fait des grandes mises en scène, même à Broadway. Puis à un moment donné, il avait fait une pièce de théâtre et puis il avait fait jouer des Noirs, des Blancs, puis on l'avait attaqué, là. Puis des Autochtones. C'est pas ce qui?
Écoute, non.
C'est... Robert Lepage, tabarnouche!
Ouais, il y a c'est pas... Robert Lepage, mais Robert Lepage, tu sais quoi, je voulais pas le nommer parce que...
Ah, tu le savais, mon dieu!
Ben, c'est parce qu'il y a pas de sourcils, je pense qu'il y a une condition particulière,
oui,
mais nous...
Les cheveux.
C'est ça, nous, contrairement à toi...
Ah, il y a des cheveux, c'est vrai!
Exact!
Il y a pas de sourcils, c'est les cheveux. Mais c'est ça, je me comprends.
Mais tu sais, en tout respect, je pense que c'est pas les siens. Tu comprends?
Ah oui, c'est ça, on me l'avait dit, bien, je vais le saouler. C'est vrai qu'il y a des cheveux, puis il n'y a pas de cheveux.
Il les a empruntés à quelqu'un, c'est ça.
Moi, j'ai le droit parce que je n'ai pas de cheveux. C'est comme vous dites le N-word, vous n'avez plus le droit, vous autres.
Hein. Oui, ben c'est ça, c'est Robert Lepage.
Oui, exactement. Puis c'est un monde de créativité à Québec. Tant que j'ai été à Montréal, j'ai été bloqué, j'ai joué au noir, là, puis j'ai été bloqué, je suis créatif, là.
Ouais.
Mais c'est pas quelque chose à expliquer. En même temps, je vous donnais les crédits, c'est la première chose. J'étais drôle dans le temps, hein. C'était possibilité, c'est des trucs, d'ailleurs, que, à Montréal, ils vont se fasser. Tu sais, j'essaie quand je dis, ah, je dis, il y a trop de blancs. C'est même à blanc des blancs. Puis là, mais Trump, ils se mettent à rire. Ah, mais c'est drôle, ça. On va essayer ça.
Ok.
C'est vraiment cette manière-là de, oui, d'être créatif avec des Trumps, hein.
Ouais.
À l'université, je fais le numéro, puis je fais pour un cours de théâtre et de provocation. Et là, j'arrive, je dis à mes amis, hey, c'est le nouveau, ça a fonctionné, man. J'ai gagné le concours. Ça, c'est la première étape. Puis ils disent, tout ça, on va à Montréal. Je vais y aller. Je me rappelle d'ailleurs, il y a un qui m'a dit, François Sibas, c'était l'ancien gérant de Louis-José Wood. Puis, hey, ce gars-là, il dormait pas. J'arrivais, j'ai vu des jeunes humoristes qui arrivaient. Tu sais, ça a commencé, ils retournaient l'école d'humour. Tu sais, ça s'est impressionné. Moi, je connais personne. J'étais dans mon coin, je faisais comme je dormais. Puis que j'arrive, pam, j'ai les ferries. Il dormait dans les coulisses, lui, là. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que j'allais pas, comment ça, j'allais, je les connais pas. Tu sais, je gardais mon énergie.
Ouais.
Et j'aimais ce côté-là. Puis ça me manque un peu. Et tu sais, comme quand je vais, il y a des bars, maintenant, en bas, on n'avait pas autant. Quand je vais essayer des numéros, ils font comme, ah, le vieux. C'est pas le vieux, mais c'est ça la beauté de l'humour. tant qu'on a toute sa tête, on peut le faire à tout âge. J'ai, une fois, j'ai perdu ma tête. Mais là, j'ai retrouvé 85%. Là.
On va parler d'ailleurs de cette époque-là tantôt. Mm-hmm. Mais je veux juste savoir, toi, bon, t'es venu au Québec, t'as étudié au Québec, Cardinal-le-Roi. Par la suite, t'as fait le cégep de Limoilou, l'Université Laval, et par la suite, t'es allé à Montréal. Est-ce que ta famille t'a suivi dès le départ, toi?
Écoute, me suivi dans ma carrière?
Non, quand tu es arrivé à Cardinal-le-Roi, là, t'es établi ici, à Québec, avec ta famille.
Oui, j'ai 17 ans. C'est ma mère qui nous fait venir. Moi, je fais une conférence là, pour rendre hommage à notre mère qui nous fait venir tous quatre enfants à Québec.
Wow.
On habite à Saint-Roch. Avant que ça soit devenu comme le plateau, là, c'est Saint-Roch. C'est à ce moment dans ce quartier-là. T'sais. Moi, je pensais, au début, je fais les jokes. Au début, j'ai vu une Sillerie, je me dis, oh, bon, Sillerie, c'est pas, ça doit être un quartier de pauvres. Moi, j'ai fait Santa Barbara, voilà, là. On va habiter dans une maison avec étage. Là, c'est Sillerie, je me dis, bon, ça doit être pour les pauvres. Là, je me suis retrouvé à Saint-Roch.
C'est ça. Ben, moi, je viens de cet endroit-là aussi. Là. J'ai habité là pendant plusieurs années, en fait, 30 ans de ma vie.
Des bons amis. Juste en face, il y avait des chums de filles qui tenaient là. Tout de suite, le même soir, je me fais des amis, mais je ne comprends pas. Il vient d'Afrique, tu sais. J'étais adorable. Et pas que les autres ont vécu des trucs racistes, les autres, mes amis noirs. Mais moi, j'étais comme... En fait, j'ai déjà eu une fiancée polonaise. En Pologne, même les racistes devenaient tes amis. Parce que je ne suis pas en confrontation, je suis genre... C'est pour ça qu'elle me faisait des jokes de noir. Je dis, ben, moi, je faisais, ah, c'est drôle, ça. Ah, tu m'as eu, hein. C'était le côté réfugié.
OK.
Parce que j'arrive là-bas... On devient chum avec... Mon frère est encore ami avec ses anciens amis de 90. Magou, Steve Leblanc, Steve Leblanc. Il y a un qui était roux. Et là, Guillaume me dit, Dizzy, parle de carotte. Il dit, c'est quoi ça? Il va pas aimer ça? Hey, parle de carotte. Hey, moi, on a fait de N-word. Moi, on a fait de N-word, toi. C'était un chum, il te dit, hey, tu vois? C'est là, les autres riaient. C'est comme ça, ça commence.
OK.
Tu sais, parce que les autres, ils disent, ça, tu vas aider poil de carotte. Moi, tu vas faire, hein? OK. Là, je vais le dire, je vais voir. C'est un tu sais, roule, hein, tu trouves ça. Le truc avec les picotements dans les yeux, les taches de roussard.
Ouais.
Moi, je pensais que c'était une maladie au début. C'était amusant. On est. Puis même au début, moi, on me dit, hey, toi, là, comment tu sais te battre? Moi, je connais un type qui pouvait cogner moi, j'ai inventé l'histoire d'Afrique qu'il ne connaissait pas. Tout était vierge pour eux. C'est des mensonges. C'est vraiment. Vu que tu es tout seul, hein, on pouvait s'intégrer. J'avais été avec d'autres noirs, puis on est. Il y a une histoire d'ailleurs que j'ai encore, comment je me suis arrêté par la police. D'ailleurs, je veux que ça fonctionne, parce que je me suis dit, je me suis fait arrêter par la police pour excès de vitesse. Pourtant, j'étais à pied. Hein. Je courais, tu sais, pour aller à l'école, puis ils se disaient devant moi, c'est cute. Ils me demandent ce qu'il y a dans mon sac, là. Je dis, ouais, ils ont vu c'est mon lance. Ils me disent, écoute, il y a un noir qui te ressemble, qu'on cherche. À moi qui me ressemble, à Québec, on est juste mon frère, cours le chercher. Et là, d'ailleurs, mon prof a été traumatisé. Pourquoi ils ont fait ça? En tout cas, après ça, je me rappelle quand la police m'a arrêté, moi, j'étais fier. Je suis cool là, la police m'a arrêté. Parce que je ne connaissais pas tous les trucs de racisme. On était peu nombreux.
Ouais.
On est un pays de blancs. On veut découvrir ça. C'est comme la Norvège pour nous.
Okay.
Le Québec, elle me dit, oui. Le côté qu'on voit en Norvège, c'est des pays scandinaves. Je voulais où il y a juste des blancs.
OK. Est-ce que ton père a suivi par la suite?
Ah, tu sais, je me rappelle, quand mon père est mort, ça a été le plus beau jour de ma vie. Hein. J'avais 3 ans et demi. Je ne savais pas ce n'est quoi. Il y avait des gens autour de chez moi. Je ne savais pas c'est quoi la mort. Vous avez un habit du dimanche. Si, prenez une semaine, on s'occupait de nous. Je me suis dit, quand je vais être grand, je vais être comme mon père. Je vais être mort. Je n'ai pas encore atteint mon but. D'ailleurs, à mon âge, je demande à mon frère, papa, là, il revient quand? J'en parle dans mes conférences quand je parle de ça.
Ouais.
C'est pour ça que j'explique comment j'ai eu une enfance heureuse au Burundi. On avait 2 domestiques. Je savais qu'il y avait mon autobus scolaire. J'ai un frère qui est mort dans un accident parce qu'il est allé au début scolaire. Tu vois, c'est le drame qu'on vit. Et une vie sans. Là, les gens disent, bon, c'est parce que ton père avait chef de village avec 4 femmes, là. C'est mon père, il n'a eu que 3 femmes. Non, c'est pas vrai. Mon père, il a connu ma mère. Ma mère est encore amoureuse de mon père.
OK.
Et c'est une mère monoparentale qui élève 4 enfants. Parce qu'elle avait une job pour l'ONU, hein. Et à l'ONU, HTR, puis elle voit que la vie commence à aller mal au Burundi. elle demande à émigrer avec ses enfants. Là, vous parlez de moi quand... Moi, j'ai une petite sœur. Moi, j'ai deux idoles. Daniela Ferrière, parce que je jouais dans son film, premier rôle, je capote, tu sais, il m'a donné ça. J'ai une petite sœur, tu googles Inès Mambara. C'est une des plus grands ministres au Rwanda, tabarnouche. Elle a commencé l'université à 16 ans, à Moncton, avait été attachée, était enseignée à l'université comme, tu sais, comme des assistants.
Ouais.
Après, elle était directrice de cabinet du président Kagame. Tu sais, le président qu'on dit le plus haut au Rwanda, là, qui fait ça. Il était directrice de Kagame. Directrice de cabinet. Et là, c'est une ministre attachée au grand. Quand j'ai été au Rwanda, calice, elle a du pouvoir, c'est garde du corps, on va dans un hôtel. Vraiment. Puis là, les gens doivent passer pour la sécurité, pas toi. Puis même, elle dit, ah, éteins la télévision. Elle a tellement de pouvoir, calice, je te le jure.
Ah ouais. Et ton père est décédé, t'avais quel âge?
3 ans et demi. C'est pour ça que je dis, oh, je savais pas c'était quoi la mort.
Ouais, ouais. C'est ça, tu savais pas là, c'était quoi la mort.
Okay. Ouais, je dis, pendant une semaine, il y avait des gens autour de chez nous. C'était comme un festival. Tu vois, il a peut-être gagné un trophée. Là, je dis, bon, c'est quand je vais être grand, je vais être comme mon père. Bon.
Ouais. Qu'est-ce qui fait que les Québécois, une fois que tu es arrivé à Montréal, là, qui était la grosse ville de l'humour au Québec, une fois que tu es arrivé à Montréal, qu'est-ce qui fait en sorte que Michel Mambara, tout de suite, en tout cas, du moins, c'était mon impression à l'époque.
Ouais,
tout de suite.
C'est ça l'impression. Hey, j'en ai mangé de la misère. Hein.
Ah oui?
J'ai déménagé à Montréal, j'ai été sur ce baisse. Il a fallu roder le show pendant à peu près 3 ans. C'est parce que j'ai déménagé là-bas en 97, mais j'ai sorti mon show en 2000. Mais la chance que j'ai été repéré par une des plus grandes équipes. Hein.
Par une grande équipe?
J'avais le même agent. En fait, même agent que Yvon Deschamps et Pierre Légaré.
OK.
Comprenez, il y a juste nous trois comme artistes. Alors, on rôde, on me met François Havard. Parce que même mon livre, là, j'ai un livre. Attends, donc, je vais l'emmener pour le monde. Excuse-moi 2 secondes.
Il n'y a pas de problème. On peut continuer à jaser. Tu es avec tes
AirPods. Oui, exactement. Tu vois, j'ai ce livre-là, c'est Il y a trop de blancs au Québec. C'est avec Michel Mambara et François Havard. Le gars des Bougons. Le gars, tu demandais à Louis-José Wood, tu demandais à Louis-José Wood, pour quand il est qui, il fait 18 ans de gala de la disque, il a toujours besoin de François Havard comme tributaire, Marthe et Matt, pour faire des beaux malaises. Au début, c'est François Havard qui me raconte ça. On commence à travailler, il est professeur à l'école de l'humour, il demande, parce qu'il demande à tous ses étudiants, amène-moi par semaine 10 jokes. Il dit, François, moi, je m'en t'amener deux blagues qui en valent 10. Il faut tellement rire, c'est un gars qui ne rit pas. Puis après, il va voir mon gérant des coups. J'ai de la misère à travailler avec ce gars-là. Là. J'ai dit des choses, il ne m'écoute pas, je ne veux plus travailler avec lui. Même mon ami Gérard, il est malade, mais je vais le voir de temps en temps. Il me dit, il est toujours fier de cette histoire-là. Il me la raconte même là. Hey, tu te rappelles quand François Havard, il me dit, il ne voulait plus travailler avec toi. J'ai dit, attends. À un moment donné, François, avant, il téléphone mon gérant, puis même, il m'en a parlé, il dit, oh, je m'excuse. J'ai voulu faire comme tous les étudiants de l'école des mots, le montrer à une façon de faire, au lieu d'écouter son fils à lui. À partir du moment où on est allé prendre un café, j'ai su qu'il avait une sœur, tu sais, adoptée noire. Puis là, quand il m'a demandé 10 pages, j'ai amené 20 pages. Puis là, il m'a dit, écoute, il était parti en vacances, il dit, c'est tout le monde avec qui je travaille, c'est avec toi que je suis le plus fier d'avoir travaillé.
Wow.
Et, si on ne me voit pas là, c'est une des raisons, je peux le dire, j'ai perdu un François Havard. Un gars qui me dit, c'est joker, il y a des jokes qui ont fonctionné juste pour rire, puis au début, je n'étais pas à l'aise. C'est à un moment donné, je dis, hey, j'ai appris votre histoire. Il paraît que vos ancêtres étaient des bandits, des prostituées, des débiles légers. J'espère que je vais changer. Puis là, François Havard dit, non, tu vas dire, vous n'avez pas beaucoup changé. Je ne peux pas dire ça, ils vont me tuer. On se gage 50 cents, parce qu'on se gageait 50 cents. Te gage 50 cents, ça va fonctionner. Je vais le faire au bar à un bar du monde qui était connu. Il part rire. Ils sont rires, quand même. Peut-être 50 cents. Il me donnait cette confiance-là. Et que jusqu'à maintenant, 18 ans après, lui, José Wood a toujours besoin de ça. Martin Matt aussi.
OK.
Ça, c'est des raisons. Quand tu perds des morceaux de ton truc, tout des branches.
Ouais.
Parce que quand j'ai fait le premier show, il y a trop de blancs là. Oui, j'ai eu du succès. Mais après ça, il n'y avait personne qui me parlait de moi. Mais j'ai amené, je me souviens d'un type qui m'avait parlé après le show pendant 2 heures. On avait jasé pendant 2 heures. Puis là, on jase de tout et de rien. demande ça au gars, la première fois au gars français, demande, es-tu le technicien de Pierre Légaré? Parce qu'on parlait de Pierre Légaré. Non, moi, j'en suis le chat, du grand échec, Pierre Légaré. D'accord, je peux parler de vin. Monnaie, il me donne sa carte que j'avais perdue. Monnaie, j'appelle à Juste Pourri. Est-ce qu'on me donner le numéro du Yvonne Deschamps? Je dis, ben non, on peut pas faire ça. Ah, OK. Là, je rappelle, je voudrais engager Pierre Légaré pour un contrat. Peux-vous me donner le numéro? Et là, il me donne le numéro du gérant. Et là, je rappelle, tu te rappelles, le gars, il y a trop de blancs. Il me dit, ah oui, je me rappelle. Qu'est-ce que t'as aimé, toi? Et viens à mon bureau. Après ça, c'est lui qui a compté la suite. Ah, il est une naïf. Viens à mon bureau. La première chose qu'il me dit, mais tu es mon gérant. Et à partir de là, il a mis toute l'équipe autour.
Ouais. Ouais. Mais t'as eu des difficultés quand t'es arrivé à Montréal. Pendant 3 ans, tu dis, t'es arrivé à Montréal.
Ouais,
le temps que
tu te mettes
en place. Oui,
mais il n'y a pas d'argent. Ouais, tu fais pas de contrat, tu fais du rodage, tu fais des bars. Et il n'y a pas vraiment... Avant que le show pogne, tu fais pas de sous.
Okay. Et quand ça a pogné Michel Mambara au Québec, ouais, t'étais un des chouchous des Québécois. Ouais. Comment t'as vécu ça, ce succès-là qui est arrivé très rapidement?
Il y a un côté où, au début, j'habitais sur le plateau et ça me gênait. Tu sais, quand tu vois, c'était pas dit, hey, t'étais drôle. Je me suis pas lavé le visage. J'ai été habité à Côte-Saint-Denis avec les anglophones. C'était plate, là! Mais c'était genre, ils me connaissent pas, je peux aller dans mon coin travailler. Ça, c'était moins grave. Le plus dur, c'était être déçu. C'est pas une équipe qui ne s'attendait pas à son succès. Moi, j'ai gagné le Félix de meilleur spectacle,
ouais,
mais je n'ai pas fait de show après à Montréal. Tu comprends pourquoi? Hé, hey, qu'est-ce qui se passe? Même, à un moment donné, j'avais dit à Philippe Lemieux, hey, j'étais pensé qu'on allait faire d'autres shows, mais avec ce Félix, oh, t'en repars le show. J'y ai attendu. Mais ça se battait dans la machine, le contrat, et j'ai mis un avocat que je respecte, celui qui habite à Lévis, Maître Payette, le fils de Félix Payette, qui est très reconnu, et des droits d'auteur. Il m'a dit, tout l'argent de la tournée, on te l'a pris. Et à ce moment-là, puis là, j'ai d'ailleurs ma fiancée, à un moment donné, j'apprends que ma fiancée est avec quelqu'un d'autre. 3 semaines avant le mariage. Je me fais avoir, hein. Et à ce moment-là, je lâche tout. Et puis il y avait un côté où on parlait pas de santé mentale. Je sais pas que je suis en burn-out, ça fait 7 ans que je travaille sans arrêt, et je suis en dépression, mais je le sais pas.
Ok.
Je savais que j'avais un problème de santé mentale, j'aurais pu négocier. Puis à un moment donné, je dis, j'abandonne tout. Même j'ai été à la télévision du sport au Rwanda, il y a ma soeur qui dit, t'es malade mentale, qu'est-ce que tu fais là? Je dis, arrête, repose-toi, puis tu veux retourner. Et là, quand j'essaie de revenir, toute la machine était fermée.
Ok. Mm-hmm. Puis après ça, qu'est-ce qui arrive, Michel?
Ben après ça, quand la machine est fermée, tu essaies de rentrer, tu attends que quelqu'un d'autre t'en masse. Et des années plus tard, Pépé s'est dit, hey, il me semble qu'il est drôle, lui. Parce que les autres, ils disent, on ne touche pas, lui, il est malade, maintenant, c'est la machine. Je sais que j'avais une grande équipe, ça faisait qu'on me voyait.
Ouais.
C'est fait que après ça, tu n'as pas d'équipe, on ne te voit pas.
Mais qu'est-ce qui fait en sorte que les
gens... Et moi, je reconnais aussi, j'ai étudié en théâtre, je ne suis pas un homme d'affaires ou un stratège pour organiser. Tu me mets sur scène, je fais comme on m'a dit pour le faire. Mais toute l'organisation, quand l'équipe ne fonctionne pas, ça fonctionne, c'est là où je sais que j'ai mes défauts. Je ne suis pas un homme qui a la carriériste, mais je sais faire le show.
Ouais. Mais qu'est-ce qui fait en sorte, okay, Michel Mambara, que les gens disaient, ben on touche pas à Michel Mambara, on l'invite pas sur nos plateaux. Est-ce qu'on avait peur de quoi? On avait peur de quoi pour pas t'inviter, Michel?
Parce que j'ai appris qu'il y a des gens qui ont fait plus de folie que moi. Mais ils étaient bien protégés.
Ouais.
C'est ça, c'est... Non. Quand on a fini... J'ai été allé. Le gars, il a changé de venir, puis comment c'est un joueur, on va lui montrer. Suivant, il y a bien des Noirs qui voudraient travailler, puis qui ne font pas du chichi comme toi.
OK.
Et je ne suis pas le seul. Il y a même Anthony qui l'a vécu en France. Oui, c'est cette manière-là. Ou est-ce que, parce que tu es gros, puis je ne dirais pas des noms que je ne connais pas, mais quelqu'un qui les ficelles, il dit, oh, plus nécessaire.
Y a-tu des gens qui t'ont aidé, qui t'ont assisté dans cette descente aux enfers-là?
Je trouve que l'équipe, maintenant, ils le font. Mais sinon, si vous savez jusqu'où on peut descendre, hein, et la meilleure chose, moi, je faisais celui qui le cache.
OK.
Il ne faut jamais le voir. Ouais, que moi, je parais bien. On ne sait pas c'est quoi la bataille que je suis en train de combattre. Parce que tu as... Je me réveille, il y a une dame qui a dit, oh, t'as perdu du poids. C'est qu'il n'y a pas de rien dans le frigo, cher ami. est-ce que vous irez demander pour aller manger comme les autres des banques alimentaires? Jamais de la vie. On tient le coup. Et c'est ça le truc de la culture aussi. On va pas demander de l'aide pour ça. On t'a mis dans cette situation pour qu'on se moque de toi. Hein.
Ouais. Puis comment tu as réussi à subvenir à tes besoins, Michel Mambara, pendant toutes ces années-là?
Je me pose la question. Il y a des périodes, c'était vraiment très drôle. Tu sais pas, quand tu regardes jusqu'à la fin du mois, où le loyer, dans une chambre, je me rappelle qu'il m'a dit, tu habites ici. Oui, je t'ai montré pour ne pas te moquer de moi. Parce que sinon, personne ne peut savoir où je suis. Et là, même dans cette chambre, tu ne sais pas comment le loyer ou comment manger. Tu ne sais pas vraiment. Et il ne faut pas aller demander à personne. Demander, c'est on se va se moquer de toi. D'ailleurs, tu es la première personne que je dis jusqu'où ça a été ce nom. Parce que ça commence à bien aller. Parce que quand tu es dedans, d'ailleurs, personne ne veut voir une interview. Il vient voir. Ah, il va mieux maintenant. Personne dit, ah, il est en train de struggle. Parce que les gens te regardent de loin. Tu sais que tout le monde sait ce que tu vis. Et on se moque de loin. Tu comprends? Et ils le savent très, très bien. Tu fais la punition, on le sait très bien. C'est pas que, on ne le savait pas. On le sait très, très bien. Parce qu'on sait ce qu'on te donne et on sait ce qu'on te refuse. Mais la meilleure chose quand tu es artiste, je ne suis pas venu ici en tant que touriste. Hein. Je suis venu voir toutes les angles de la médaille. Du bon côté, c'est fun, hein. Tu vois de l'autre côté aussi. Okay. Et ça te grandit comme un artiste. Si tu ne restes pas dedans, ou dans le sens que, heureusement, des gens comme Daniel Lafayette m'ont appris, n'ont jamais te plaindre. Parce que tu sais qu'il y a un frère qui a trop souffert beaucoup plus, et que c'est amusant. Et joue avec, même la première fois quand j'ai réussi, c'était pas une bonne période. Hein. Dire que tu es en théâtre en tant que noir, ce serait pas drôle.
OK. Est-ce que, avec du recul, là, parce que moi, ton histoire m'intéresse, je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui qui vivent exactement ce que toi, t'as vécu ou peut-être avec certaines différences. Moi, ce qui me dérange, Michel, c'est que tu semblais bien entouré à Montréal. Tu faisais faire de l'argent à énormément de personnes.
À d'autres.
À d'autres, effectivement.
Oui. Et, j'ai demandé, je peux-tu avoir le même cachet que les autres? Ils m'ont dit, tu veux, mais ils m'ont donné un pilier comme cachet.
Et une fois que les lumières se ferment, Michel, les gens n'étaient plus là pour toi. Ils t'ont laissé seul. C'est ce qui me dérange beaucoup. Y a des vraies amitiés dans la vie, il y a des fausses amitiés. Je trouve ça triste que tu te sois entouré, malheureusement, pour pouvoir faire ce métier-là, de personnes qui n'avaient pas nécessairement les mêmes valeurs que toi et moi on peut partager. C'est-à-dire, quand quelqu'un est dans la misère à côté de nous, on se doit de l'aider.
Mike Wood, c'était touchant. Hein. À un moment donné, je faisais le gala en 2006. Et même, j'ai été mis au chaîne parce que je faisais comme un militaire qui venait de l'Afghanistan, mais ça n'a pas, personne ne l'a pris parce que je n'avais avec personne. Hein. Il n'y avait personne comme dans la gérance, mais j'ai été. Puis là, on est après l'hôtel. Il me dit, envoie des nous, je compatis avec toi. J'avais vécu quelque chose de dire, mais c'était bien avoir son histoire avec le petit Jérémy. J'ai sa compassion. Parce qu'au début, ma mère m'a demandé, est-ce que les autres me disent, mais non, c'est comme un formulaire, tu tombes, les autres continuent, c'est la course. Mais ce temps-là, il y a des moments comme Jean-Michel, tu juste sentir qu'ils sont là, qu'ils te respectent. Ah oui, pourquoi je dis ça? Parce que non seulement on te salit, mais l'image, avant que belle cause pour la cause arrive, oh, c'était, on pouvait se moquer de la santé mentale. Hey, c'est fou. Mais quand Belle est arrivée, c'est pas beau parler. Et avant ça, les gens qui pouvaient se permettre parce que je n'avais plus de protection. Donc, allez-y, tapez dessus. Il y a des gens, juste qui ont eu la compassion de Mike Ward ou Jean-Michel Antrim, me dit, je te vois pas comme un fou. Hein? Parce que les gens suivent votre côté. Hey, il est fou, ah oui! Moi, je pense que je suis fou.
Hein? Okay.
C'est comme on exagère ta folie. Là.
Ouais. Et pendant toutes ces années-là, est-ce qu'un jour, dans toutes les années que tu as fait ou on t'a pas vu dans les médias, excuse-moi, est-ce que tu as décidé de changer de continent, d'essayer de te faire oublier, de te cacher? Est-ce que tu as. Ou tu es resté à Montréal?
Non. J'ai été au Rwanda, c'est lorsque ma soeur qui est venue, n'était pas menée, c'est qu'est-ce que tu fais là? Dit, ton pays, c'est tout Québec, là, retourne chez vous. Parce que c'est une peine d'amour, tu t'es fait anarquer, que tu vas arrêter ta carrière.
Ouais.
La seule fois que je suis parti, d'ailleurs, et c'est vous que Jonathan de Montréal suit, je suis parti, j'avais dit, mais je retourne dans mon pays. Et là, j'ai rentré dans Montréal, il me dit, on a vu que t'es retour. Shit, on voit tout, hein, tout le monde surveille. Moi, j'étais revenu discrètement. Ça en parlait. Donc, moi, je suis juste parti 3 mois. Puis le reste du temps, j'étais au Québec, là.
OK. Est-ce que tu as fait divers emplois?
Aïe. Tu vois, quand t'es rendu aussi haut, mais hier, ma soeur a des chances de carrière. Hein? C'est pas comme si j'avais raté l'humour. J'avais réussi une sortie, ça fonctionnait. La seule fois que j'ai osé faire un autre emploi, c'était pendant la COVID. Et je vous dis ce qui s'est passé, j'ai travaillé dans le CHSD. Avec du monde comme nous autres, qui me ressemble. Ils me disent que tu es là. Ben, j'ai le droit, je viens. Non, c'est pas ta place. C'est mon joke. Tu sais quand? Oh, tu rentres pas dans la gang. T'es là pour combien de temps? Pour une fois. Hey, je vais te prendre une photo avec toi. Imagine. Tu peux plus, hein, quand t'es là-bas. C'est la mafia. Quand t'es rendu à l'humour, c'est ça. Mais on t'a mis par terre, goûte vie, et on m'avait prévenu. Quand on m'avait dit, hey, pas ça qui dit, oh, c'est simple, c'est qui t'a donné pour enlever, ok, je vais voir. Moi, je pensais que c'était drôle. Non, c'est l'équipe, c'est toute la machine. À un moment donné, j'avais essayé de travailler avec quelqu'un que je respectais, mais il y avait une équipe plus haute. Oh, le business est plus important que le show.
Ouais.
C'était à l'époque, avant, c'est quand il y avait des gens qui possédaient et tout ça. Maintenant, je ne sais pas si ça change. D'ailleurs, avec TikTok, les jeunes, maintenant, ils créent leurs affaires. Et donc, j'ai compris l'importance de la machine.
Tu as compris l'importance.
On était créateurs.
Ouais,
on était créateurs. Si ça ne se passe pas avec je travaille avec d'autres. La création. Non, on va te fermer ta gueule.
OK.
Oui, allez-y.
Et la compagnie qui t'accompagne maintenant, Michel Mambara, comment ils t'ont approché? Ils se sont souvenus de toi comment?
Et mon gérant, il a écrit un truc sur Facebook qui a eu beaucoup, beaucoup de likes. Après, il a parlé de... Soit dans le temps, je peux vous le dire, hein?
Ben oui,
oui, c'est vraiment la manière comment ça s'est passé. J'espère que je vais le trouver. Oui, c'est le nouveau mode quand quelqu'un te dit quelque chose. Je dis la phrase qu'il a dit, c'était tellement touchant. Je le trouve tout de suite. Je viens. On y arrive.
Écoute, Michel, est-ce que tu me permets de faire une petite pause de 30 secondes?
Oui. Comme ça, je trouve le poste.
Parfait.
Ah, oui.
Hey, on passe un beau moment ce soir en compagnie de Michel Mambara. Ça fait des années, vous n'avez pas entendu parler. Et on vous le présente sur les zones de Boulevard. Puis, je vous invite à aller faire un tour sur sa page web, michelmambara.com. Donc, tapez sur Google Michel Mambara. Puis, c'est le premier site web qui apparaît. Puis là-dessus, bien, vous allez avoir sa biographie, ses conférences en santé mentale, toutes les vidéos, puis si jamais vous avez besoin de Michel pour faire des conférences ou encore des petits spectacles comme ça, ben il y a un endroit aussi où vous pouvez cliquer pour embaucher Michel Mambara. Donc, c'est directement sur sa page web michelmambara.com. On fait une courte pause de quelques secondes puis on vous revient tout de suite.
Marceau le soir, présenté par Voyage Aquaterra Lévis Québec. Visitez la nouvelle agence de Québec. Maintenant, deux adresses pour vous servir, boulevard Bastien à Québec et avenue Taniata à Lévis.
Reg Against le matin. Le matin.
Boulevard 102A.
On est avec Catherine Dorion pour ceux et celles qui se joignent à nous. T'as écrit un livre qui s'appelle Les Têtes Brûlées, carnet d'espoir punk. Clairement, ton objectif, c'était pas je vais écrire un livre et je vais régler des comptes. Mais il y a quand même des trucs qui sont sortis qui ont écorché certaines personnes, notamment le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois. Est-ce que tu penses que Québec solidaire peut continuer à évoluer dans cette façon-là?
Mais ce parti-là, il a été fondé par des gens qui voulaient être une voix anti-système dans le Québec. C'est un parti anticapitaliste. Puis c'est un parti qui disait un parti des urnes et de la rue. Après, comment le parti va évoluer, je ne sais pas. Est-ce que la direction du parti est capable de dire « Ouais, c'est vrai, on est peut-être allé un peu trop loin dans essayer de montrer une bonne image aux médias puis faire tout focusser sur le parlementarisme. »
Pour ton rattrapage de Rage Against the Machine, rends-toi sur le blvd.fm et l'application mobile.
102.1
Il y en a qui sont plus de type blonde, rousse, brune.
Moi, je suis plus de type IPA. en novembre. Soyez à l'écoute de Gravel dans le retour et du boulevard du Rock pour connaître la sélection de bières de nos animateurs. Inscrivez-vous au blvd.fm. Chaloux pourrait remplir votre frigo de bière pendant un an.
Un an de bière?
Ouais! Ça, ça en fait de la rousse.
Le deuxième plus gros frigo à bière à Québec, ça pourrait devenir le tien. Grâce à Accommodation Chaloux et Boulevard 102.1.
Boulevard 102.1.
Marmiton 2 pour 1 pizza. C'est de la pizza de haute qualité, doublement bonne, pour la moitié du prix. Obtiens même 15% sur ta commande en ligne. Marmitonpizza.ca.
Noël sera festif cette année dans la Jacques-Cartier. Du 25 novembre au 10 décembre, vivez la magie des fêtes dans l'un des 6 marchés de Noël de la région. Moment festif, rassemblement chaleureux, cadeaux uniques et encore plus vous attendent. Détails au mrcjacques-cartier.com/Noël.
Roulez en toute sécurité avec la qualité de la traction intégrale ou de la super traction intégrale de Mitsubishi. Rendez-vous chez Sainte-Foy Mitsubishi et Québec Mitsubishi pour essayer nos Outlander 2023. Encore quelques unités de Outlander 2023 à liquider. Passez voir nos spécialistes en concession pour découvrir nos offres. Mitsubishi, toujours la meilleure garantie de l'industrie sur 10 ans ou 160 000 km sur le groupe motopropulseur. Sainte-Foy Mitsubishi sur la rue Einstein et Québec Mitsubishi sur Pierre-Bertrand.
La nouvelle collection de cocktails prêts à partager de la distillerie Hubald propose 3 classiques pour vous permettre de découvrir l'art du cocktail. Cosmo, Aviation et Espresso Martini. Avec ces 3 cocktails déjà prêts à shaker, savourez ce qu'il y a de meilleur simplement et avec plaisir. Shaker, verser, partager. Retrouvez ces prêts à partager Hubald à votre SAQ.
Voulez-vous économiser sur votre changement de pneus? Kennedy Pneus et Mécanique vous offre une carte cadeau d'une valeur de 250 $ pour seulement 125 $ au mercado.fm. Kennedy Pneus et Mécanique, à 15 minutes des ponts, ça vaut le déplacement.
Les pneus, ça nous connaît.
Profitez du Vendredi fou pour prendre soin de vous. La clinique Equinox offre des promotions exceptionnelles avec des 2 pour 1 sur des tatouages, épilation laser, photorajeunissement et hot sculpting. En plus des nombreux spéciaux sur les produits. Tous les détails à cliniqueequinox.ca.
À la CCAP, on est plus qu'une compagnie de télécom. On connecte avec des humains et on a une opportunité d'emploi pour toi. On recherche un directeur adjoint pour notre département de production vidéo qui aura pour rôle d'assurer la planification et l'exécution de l'ensemble des activités de CCAP Productions. Joins-toi à notre équipe de créatifs. Assurance, REER collectif et cellulaire payé, boni de bienvenue de 1000 $.
Ta chance de te joindre à la famille CCAP, c'est maintenant.
Postule au carrière.fm.
Quoi de meilleur qu'un McMuffin et un café infusé format moyen McCafé? Ben, un McMuffin et un café infusé format moyen McCafé à seulement 4 $ plus taxes? Rien de meilleur qu'un déjeuner McDo à ce prix-là. Pour une durée limitée, détails dans les restaurants McDonald's du Canada participants, les prix ne s'appliquent pas à la livraison.
Le site web de Boulevard. Telle une vieille rockstar, s'est fait pimper la face. Mais on a fait ça light. Pas d'injection, pas de scalpel, mais pas mal plus sexy. Pour réécouter les extraits, les podcasts, nous écouter en direct, participer à nos giga concours et vous prononcer sur notre musique, allez au blvd.fm.
Marceau Soir, présenté par Voyage Aquaterra Lévis Québec. Visitez la nouvelle agence de Québec. Maintenant, 2 adresses pour vous servir. Boulevard Bastien à Québec et avenue Taniata à Lévis.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Le soir. Le soir.
Je vous rappelle que ce soir, on est avec Michel Mambara, michelmambara.com. C'est l'humoriste que vous avez connu et apprécié il y a de ça quelques années. Dans les dernières années, ben, il s'est fait un peu plus discret. Et là, ben, il décide de revenir sur les ondes de Boulevard à Québec, une petite station de radio. Puis Michel me fait confiance. Un gros merci de ta confiance de m'accorder cette entrevue-là ce soir, Michel. C'est très, très, très apprécié. Puis j'espère que c'est apprécié tout autant.
L'honneur est pour moi, c'est pas une confiance que je suis honoré, tu serais un psychologue. T'es meilleur que mon psy, hein? Oui. Moi, je suis prêt à te dire toute ma vie. Ma mère m'a pas dit qu'elle m'aimait quand j'étais jeune. OK. Avant la pause, je lui ai dit, j'avais trouvé le mot de Steve Godbout, mon gérant, c'est le même gérant que Hugo Girard, tu as dit, ouais. Sylvain Marcel, Famille des Prix, Paya Méthode. Il me dit, il m'écrit, il y a quelques années, une pensée me traverse, comme ça, de nulle part, en plein jour. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe avec Michel Mambara? Dans le sens que j'en entends plus parler. Lui qui a été un humoriste vraiment marquant à l'aube de l'an 2000, ayant donné au Québec l'un des shows les plus drôles que j'ai vu, et qui avait même remporté le Félix de l'année, entre parenthèses, qui est d'ailleurs maintenant sur mon bureau parce qu'il me l'a prêté. Bref, bien que je ne le connaissais que peu pour avoir travaillé avec lui à deux ou trois reprises, je me dis que j'ai rien à perdre à le contacter. Ce que je fis à l'instant même. Il est alors au Rwanda. Il me répond par call messenger. Et avec sa verve habituelle, on jase un bon 30 minutes en se disant qu'on se verrait pour un bon repas à Montréal à son retour. Résultat, on s'est vu, on a mangé ensemble, je suis tombé sous le charme de cet être humain unique. Il est en gérance chez nous depuis 5 ans. Il est de loin le conférencier le plus prolifique et en demande chez nous. Sa conférence sur le thème de la santé mentale est demandée et redemandée tellement elle vient du cœur et racontée par un être généreux qui a compris le mal à l'âme et la détresse de ceux qui souffrent en silence. Silence qu'il faut briser absolument. Merci Michel d'être qui tu es et d'accepter d'aider autant en te livrant sans filtre. C'est beau, hein?
C'est très beau.
Dans les gars, on se dit des émotions à cette heure. On se partage.
Ouais.
Mais... tu vois, les gens. Et à un moment donné, j'avais eu un cadeau, mon beau-frère qui est riche au Rwanda, bien vite au Rwanda. Et là, on vient, on mange. Et d'ailleurs, on est allé voir un show au Centre Bell de Père Méthode. Après, il y a un restaurant là-bas à côté. On mange, on amène la facture. Hé, hey, mes amis, hein, moi, je n'ai pas encore fait de show avec vous. Comment je vais payer cette nourriture, moi? Tu vois, c'était lorsque je suis rendu. Mais maintenant, jamais des filles des à gauche, à droite, au reste. Mais je viens, OK.
J'adore ça. Mais juste pour en revenir au message de ton gérant, c'est un gars qui est très humain. Là. J'ai déjà eu l'occasion de le rencontrer. Puis je pense qu'il ressent un peu ce que moi je ressens quand j'entends parler un peu de ton histoire. Puis je te vois aller aujourd'hui. Je pense, Michel, il y a pas personne de mieux placé pour parler de santé mentale que quelqu'un qui l'a vécu puis qui est descendu extrêmement bas puis qui a réussi à se reconstruire. Je trouve ça formidable aujourd'hui que tu fasses des conférences en santé mentale pour essayer d'outiller les gens qui vivent et qui passent par les endroits où toi tu passes. Tu les abordes comment, ces gens-là, quand tu te présentes? T'sais? Bon, tu es un humoriste, tu es un conférencier, tu es acteur aussi. Comment tu débutes ta conférence avec ces gens-là?
Sincèrement, je veux dire, je rentre en dansant. Je mets la musique, l'ambiance africaine, tout ça. D'ailleurs, à un moment donné, j'ai fait, puis il y avait l'ambiance africaine. Après, c'est wow. Moi, vous dites sûrement, c'est toujours comme ça avec les Noirs. Hein? Faut toujours que tu te mettes à danser. Écoutez, je ne fais pas ça pour le fun, le plaisir. En fait, je dois me déhancher au moins une fois par heure pour bien digérer mes pilules d'anxiété.
Voilà.
Ouais, je pars comme ça, léger. Et là, je fais avec humour mon parcours de vie. Je ne sais pas, mais en fait, j'explique comment, quand j'étais porte-parole de Belle Cause pour la Cause, je faisais mon témoignage. Et petit à petit, j'ai commencé à écrire un texte structuré avec un début et une fin, et là-dedans, pour montrer mon parcours, ce que je suis passé, tout ça. Et d'ailleurs, une de mes agentes a appelé ça « chaufférence ».
Chaufférence, ah, c'est bon.
Ouais, c'est comme un show, puis c'est partout ce que je peux me permettre d'aller dans les moments dramatiques. Tu sais, je parle que la première et crise bipolaire que j'ai, parce qu'au début, mon psy m'a dit que je suis bipolaire, moi j'ai compris bien populaire. Je sais pas si maladie. Tu dis non, mais t'es bipolaire. Ouais, bipolaire, cool, j'ai attrapé une maladie de blanc. Cool. Ça, c'est pas une intégration. Quoique, j'ai appris que je suis bipolaire avec la mort de mon père. À un moment donné, je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire. Après ça, quand mon frère m'explique à part Jésus, quand on meurt, on ne revient pas. Moi, je pensais, oui, il est mort, c'est le fun, là, mais qu'il revient dans la maison, là, je commence à me manquer. Et là, quand tu viens de comprendre, hein, c'est quoi ça? Ce n'était pas dans mes options qu'il s'en aille, mon père.
Ouais.
C'est comme le haut, le bas, ce choc, c'est un peu, et même la vie en tant qu'humoriste, tu t'installes tout d'un coup, tu descends plus bas. En fait, je te jure, c'est très bien fait. Ils ont tellement fait plaisir. Par exemple, ça je reviens sur mon état. Tous les gens qui étaient jaloux de moi, et les gens surtout de ma communauté, imagine des jeunes de mon âge, j'ai 20 ans, tu sais, ils struggle, ils se battent, et tu te vois tout réussir. Là, hey, pourquoi lui? Tu sais, on a parlé de ceux qui pouvaient être jaloux comme humoristes, tout ça. Mais on ne sait pas que dans ma communauté, ce n'est pas de tous les gens. J'en connais qui sont fiers. Quand est-ce que tu vas revenir? D'ailleurs, j'ai su que j'avais du succès quand je suis tombé. Tout le monde est sorti. Hey, où es-tu? Où es-tu? Oh, je ne savais pas que vous me suiviez. C'était même avant les réseaux sociaux.
Ouais.
Donc, et c'est, tu vois, au départ, hein, c'est comme avec des entrevues que je commençais à faire des conférences. Répondre à des questions que les gens peuvent se poser pour quelqu'un qui ne savait pas c'était quoi la santé mentale aussi. Je montre mon parcours, la première crise, je ne sais même pas que j'ai un problème de santé mentale.
Ouais.
Mais ça m'a pris du temps aussi d'accepter, surtout quand tu viens d'un pays comme le Rwanda, parce que moi, je n'ai jamais été dans une bataille. Tout le jour de ma vie, je n'ai jamais reçu un coup de poing. Je ne suis pas fou. Les gens qui se coupent par la machette, là, qui se tirent, ça, c'est des fous. Et de faire des niaiseries, quoi. Et là, c'est l'exemple, à mon psy, pour de vrai, hein. Je dis, donner comme exemple, 5 ans avant le décès de Robin Williams. C'est vraiment, je dis, hey, est-ce que ça, c'est du génie? Est-ce que ça peut être dans vous? Je dis, bon, ça fait des folies. Là, mon psy, me dit, c'est que Robin Williams a des problèmes de santé mentale, il consomme la cocaïne. Oh, si, tu as connu des potes, je ne savais pas. Et là, ça aussi, ça compte. Puis tout d'un coup, c'est lorsque je commençais à me parler de ma vie, comment quand mon père est mort, puis le choc. Moi, je ne conduis pas jusqu'à 50 ans, je ne conduis pas. Quand j'ai un frère, tu sais, à 10, une auto écrase, quelqu'un est sous, c'est un choc. Je dis, non, pour mon frère, oh, à chaque fois que je dis, j'ai comme une émotion. Non, on ne peut pas lui faire ça. Je suis contre les autos. Puis d'ailleurs, avec mon gérant, peut-être que je vais commencer à avoir une auto. J'écris à mon œil là-dessus. À 50 ans, peut-être je vais avoir un permis, mais j'ai longtemps, je n'ai pas voulu avoir un permis parce que l'auto a enlevé la vie de mon frère.
OK, je comprends.
Des petits trucs comme ça, c'est des traumatismes.
Ouais. Est-ce que tu abordes l'aide psychologique, à quel point c'est important pour les gens qui souffrent de santé mentale d'avoir de l'aide psychologique, puis aussi peut-être aussi régulariser ce qui se passe là avec des médicaments? Est-ce que l'apport des médicaments... Michel Mambara, est-ce que toi, ça t'a aidé à revenir un peu sur Terre quand tu avais tendance un peu à décoller? Là?
Le lithium, je trouvais que ça me manquait quelque chose. Et je me suis rendu compte, et d'ailleurs, je venais en parler avec mon psy. Hey, c'est bizarre, c'est la première chose que je me demande juste avant. Je te regarde, je t'ai pas vu. Tu as l'air en forme. C'est des heures, c'est juste que tu as caché. Après ça, pour te demander à ton âge, c'est dit, tu as fait 47 ans. Si tu allais en forme, qu'est-ce que tu fais comme tu fais? Tu fais du sport? Fais-tu du sport?
Dans mon cas, moi, ouais, je joue au hockey puis au déco-hockey.
Déco-hockey, c'est quoi ça?
C'est du hockey, pas de patin.
Mini-hockey!
Ouais, mini-hockey, mais dans des ligues organisées.
Avec des petites boules, là, ils m'ont invité. J'ai eu mal au dos après ça, tu sais, parce qu'on se marchait, tu sais, je voulais embarquer. Ah, c'est pas pour moi, tu sais, le mini hockey, je sais pas patiner. Mais non, Michel, on joue avec Slack, le chou-slack. On appelait ça le chou-slack, tu sais.
Les chou-clack.
Les chou-clack. Oui, avec les chou-clack, ça courait. Mais moi, je vais être goleur, parce que je veux, tu sais, ça me fait... Pourquoi je te dis ça? Après, moi, quand on voit Jean-Zet fini, là, à 17h30, c'est déjà marqué mon cours de yoga chaud.
OK.
Que je ne connaissais pas du tout. Je te le jure, c'est mon médicament. Je dois y aller. D'ailleurs, maintenant, on est le défi 30 jours. Et là, j'envoie d'autres fatigues. Moi, ça m'est... Tu sais, comme là, tout à l'heure, je me sentais bien. Je sors là-bas, ça a tout changé. Hier, j'étais au yoga. Après ça, j'étais natation. Ça mentait. Pendant 1h19, 72 tours. Parce que ça, c'est mon truc qui me régresse pour le cerveau, le lithium, parce que j'ai vu ma soeur, parce que j'ai une autre soeur aussi, je m'excuse de dire ça, il y en a une qui est ministre, il y en a une autre qui est schizophrène. Elle a donné mes pilules plus gros. Oh man, elle a pris du poids, et la première chose qu'elle veut, c'est dormir. Manger et dormir. Et c'est quelque chose que j'ai découvert quand c'est la période la plus dure, quand je me suis retrouvé à un institut psychiatrique, à l'asile. Pas d'être quelqu'un toujours. C'est la période la plus noire, pas la période de mes proches. Surtout la fin de semaine, quand t'as pas un psy pour te jaser. Ouh! Un, c'est lorsque je dis, je viens de gâcher ma carrière. De deux, là, on peut donner plus de pilules pour être sûr. Et la première chose, ça donne envie de manger. Hein? Et j'ai pris de voir, oh, ça rentre dans l'estomac. Tu veux manger et tu veux dormir. C'est, en fait, c'était un, moi je pensais en Asie où je vois des folies. Non, tu donnes des pilules, tu as la jaquette et tu fais juste les 100 pas. Ça t'enlève toute énergie, toute envie de rien faire.
Ouais.
À mon avis, j'ai demandé l'antidépresseur. Puis mon psy dit, oh non, toi, ça va te faire monter. Or, moi, quand je suis un gars très seul, hein, Mais quand je vois des gens, comme je suis gêné, je suis hype parce que je suis gêné. Même draguer une fille au croisé, là, je suis pas là droit. Même lui dire, dernièrement, j'étais avec une fille. On est dans l'auto, ça va bien. Michel, arrête de parler shit. Me dit ça. J'avais parlé, mais merde. Fuck, j'ai gâché mon truc. C'est tout fonctionne et je continue de parler, Colin. Tu comprends? C'est parce que je suis énervé.
OK. Fait que toi, c'est vraiment dans le yoga show que tu as trouvé une forme d'équilibre.
Non, mais c'est. C'est tout. Quand tu tombes en amour, parce que j'en vois qui aiment ça, je vais pousser. C'est devenu ma religion. C'est mes amitiés. Déjà, on fait partout de Noël ensemble. Et j'ai vu, même j'ai commencé le 27, j'ai vu qu'on marque les dates. Mm-hmm. Le 27 décembre 2017. Donc, je vais fêter mes 17 ans bientôt là-bas. À y aller presque tous les jours. Où est-ce que je me suis fait une famille? D'ailleurs, j'avais une fiancée qui était prof de yoga là-bas. Il est toujours prof là-bas, mais c'est mon ex. Mais on se tient, c'est devient ma gang.
Okay.
Et je ne trompe pas cette salle-là. C'est le même endroit. Tu peux tromper aller à d'autres yoga. À un moment donné, j'ai été là, c'était des anglophones. Je me dis, ils ne me connaissent pas, ils peuvent me juger. Et c'est devenu ma famille, mais il y a des francophones qui vont maintenant.
Ouais.
C'est mélangé. Et ça me fait tellement de bien. Et même à un moment donné, quand ça fait 2-3 jours, je n'ai pas été à natation, il faut que j'aille faire la natation. Je fais mes longueurs et j'ai les comptes. C'est vraiment quelque chose qui a été nouveau que j'ai découvert quand je suis tombé.
Okay.
Parce que je dis, il faut vraiment quelque chose qui me donne envie de hoop.
OK. Et donc, toi, t'as trouvé dans la discipline une forme d'égalité.
Je te dis, parce qu'il y a des moments où je suis déçu avec des gens, où quelque chose, un projet ne fonctionne pas. Au moins, je vais aller me cacher là-bas. Il y a des gens qui vont poser leur prière, ils vont là-bas. Au moins, et surtout, la confiance, ça me donne. T'sais, c'est quand toi, je fais des trucs, là, ça te donne, tu te sens comme, je me sens vivant quand je suis là-bas.
OK.
Ah oui, le mot, je me sens valorisé. Ça, c'est très important au niveau de l'estime de soi, au niveau de dépression. Ouais. Même quand je suis déprimé. Pendant le COVID, hein, j'ai essayé Zoom. Je sais, ça n'a pas fonctionné parce qu'il y avait une personne autour de moi, je ne me respecte pas. Et là, j'ai pris du poids de moi-même. Ma mère m'a dit, Christian, tu commences à avoir des seins. J'ai abandonné. Natasha, on ne pouvait pas y aller. Par Zoom, je ne pouvais pas tout seul. J'ai besoin de l'esprit de gang.
Ouais.
Oui, et cet endroit. Puis là, tu sais, la flaque d'eau qui sort là-bas. Tu vois, je te jure, j'en parlais. Je sors là-bas. Même je me crouse. C'est qui ça? Tu sais, au ventre, vous, c'est bon. Tu sais, des fois, tu vois, un soir, là, des autres soirs, je suis fatigué.
Ouais.
C'est le contraire.
Donc, c'est dans le sport et dans le social que le sport t'amène, que tu as réussi à trouver ton équilibre. Quand tu rencontres... parce que tu fais plusieurs types de conférences en santé mentale,
donne les conseils. 7 conseils, en parler, être gentil, tout ça.
Oui.
Puis moi, ma technique, c'est le YNCA. Yoga, natation, créativité. C'est créativité amie. Exact. Quand tu m'as demandé la question, as-tu fait d'autres jobs? C'était l'affaire que les immigrants, c'était des médecins, des avocats qui sont chauffeurs de taxi. Tu ne sais pas à quel point c'est déprimé, là. Tu n'es pas épanoui. Quand je fais les conférences, tu sais, c'est le truc dans lequel j'ai étudié. Et je suis bien payé pour faire ça.
Ben oui.
Cette créativité est épanouie. Quand tu peux épanouir ta créativité et à des amis. J'en ai pas beaucoup, mais les amis, c'est comme les antidépresseurs. Quand tu n'as pas d'amour, les amis sont là. C'est mes garde-fous. Donc, c'est le sport, pouvoir faire mon métier et avoir une vie sociale.
OK. Et puis, tu leur parles des causes probables du dérèglement santé mentale, les changements d'environnement, les stress scolaires.
Même je le lis, je l'ai dans mon téléphone, je lis ça. Tu sais, je fais avec mon téléphone, je mets de la musique. Je parle des listes des maladies les plus connues, je parle des causes probables et les conseils pour. Tu sais, les conseils que ce n'est pas mes conseils à moi, les conseils des professionnels. Puis je fais des gags là-dessus, parce que moi, j'ai un docteur petit enfant, c'est pas Bumba. Parce que tu sais, ça prend un projet. Là. J'ai un projet de un petit enfant. Au début, je voulais adopter un haïtien, mais ça n'a pas fonctionné parce qu'il l'a donné un Québécois. J'avais trouvé un beau petit haïtien qui n'a jamais servi, toujours, c'est la garantie. Qui n'a jamais été l'hiver. Et là, moi, j'ai mis un beau petit blanc, mais je me rappelais Bumba. Un petit blanc, un bleu, bleu. Moi, il m'a donné une éducation belle africaine.
Est-ce qu'un jour, Michel Mambara, on peut espérer, parce que moi, je t'ai connu au début des années 2000, je t'adorais, j'adorais écouter tes spectacles, je trouvais que c'était rafraîchissant. Est-ce qu'un jour, on peut espérer que Michel Mambara va repartir en tournée à travers le Québec? Est-ce que c'est un de tes objectifs de revenir comme ça?
Tu vois, je commence à me rappeler l'expérience des entrevues. Donc, je sens qu'on est vers la fin de l'entrevue. J'ai deux choses. Un, je vais répondre à cette question-là. Les choses que j'aime par rapport aux conférences, à la fin de la conférence, je dis, ça fait plus de 15 ans que j'ai trouvé la bonne thérapie, le bon psychiatre, le bon médicament, mais le meilleur médicament, et puis mon psy est d'accord avec moi. Moi, le médicament qui me fait le plus de bien, c'est avoir passé du temps avec vous autres. Et malheureusement, ça, c'est un truc que Guy Lévesque m'a donné comme truc à un gala. Puis sauf que ça expliquait tout. Quand je passe du temps avec du monde, là, c'est mon médicament. Bien. Est-ce que ça répond à la question? Est-ce qu'on... Peut-être que j'ai une émotion. Est-ce qu'on espère... L'épouse, le conjoint de mon gérant, qui travaille ensemble, il est venu me voir des conférences que j'ai fait à Lévis. Puis il est rentré, il dit, hey, je pense que Michel est prêt, il est drôle, tout ça. Et là, mon gérant m'appelle, ça fait que 2-3 mois. Il dit, Michel, au mois de mars, quand la neige va tomber, amène-moi quelque chose comme ça, là. La Bible, quelque chose comme ça, où est-ce que tes textes, pas encore rodés. Si c'est bon, j'appelle l'équipe, entourage, toute la machine, là, je ne devrais pas te le dire. Fait que si on ne me voit pas, c'est que c'est pas mon travail n'a pas été bien. Fait que là, je suis vraiment dedans. D'ailleurs, c'est le seul moment où je fais natation. Je dis, hey, Michel, il faut que j'écrive. Mais je n'ai pas toujours la même technique. T'sais, des fois, je peux passer 3 heures, je n'ai rien trouvé. Je dis, oh, j'aurais dû nager. Puis une fois, d'ailleurs, je me souviens que dans le temps, il y a un gars que j'avais trouvé en sortant de natation, puis qui a beaucoup fonctionné. Dit, la première fois que j'ai rencontré un lion, face à face, j'ai pas eu peur, j'ai regardé des yeux. C'était au zoo de Granby. Puis là, il était là avec le 14, puis il était en dépression parce que le 14 a dit, « Hey, vous autres, les lions, venez ici, tout à l'heure. Le roi de la jungle est sur le bain, sacrement. J'essaie de trouver des jokes comme ça, là. Tu sais, on n'en trouve pas comme ça. C'est pas... Il y a des... C'est comme des pépites qui tournent. Puis j'en ai quelques-uns, je ne t'ai pas dit, bien sûr, que je le place comme un puzzle. Puis là, je sens que le puzzle commence à être monté.
OK.
Puis, tu sais, moi, je ne sais pas comment... Tu sais, pour que quand le public vienne, je le tiens du début à la fin. Ouais. C'est un truc que j'ai étudié en théâtre avec une personne que je respecte, Paul Pelletier. Et si tu les as, là, si tu les fais rire, fais quelque chose qui ne baille pas, là. Tu sais, c'est ça, vraiment.
Michel Mambara, je pense que je me joins à tous les auditeurs qui écoutent Boulevard présentement et qui t'ont connu. On te souhaite tellement de revenir puis d'obtenir tout ce que tu désires et tout ce que tu mérites dans la vie. Tu travailles extrêmement fort. Tes spectacles étaient écœurants. T'as malheureusement eu cette maladie-là qui est arrivée, puis t'as dû apprendre à vivre avec. Puis aujourd'hui, tu vis avec, puis en plus, t'aides les gens qui vivent les mêmes choses que toi, qui ont des troubles de santé mentale, en informant nos enfants dans les écoles ou les employés dans les entreprises qui veulent en savoir plus sur la santé mentale. Je trouve ça formidable, tout ce que tu mets là en place. Puis moi, je salue ton équipe de gérance qui travaille extrêmement fort pour te ramener devant nous, le public. Tu as été très adoré, puis je pense que ton retour est très, très, très attendu. Tu es un gars super, et tu sais quoi? Quand tu passeras par Québec, pense à moi. Tu viendras me voir sur l'heure du midi. Tu n'as même pas besoin de t'annoncer. Tu dis à la porte, Yann veut me voir, tu ouvres la porte du studio, puis tu viens jaser avec nous autres.
Si tu veux, je vais prendre le dernier mot pour te dire... Et ça a été une bonne rencontre. Et tout à l'heure, ça me rappelle un truc en santé mentale que je le dis. Quand il s'agit de santé mentale, on ne peut pas s'en sortir tout seul. On a besoin d'équipe quelqu'un d'autre. Même dans le milieu de l'humour. On ne peut pas faire ça tout seul. On a besoin d'une équipe. Et moi, justement, quand des entrevues comme ça, les gens, l'apport de l'autre me permet, un, pour ma santé mentale et même pour mon art. Et ça serait un honneur, d'ailleurs, quand je vais demander à Steve, à la gang, si je viens à Québec, j'ai envie d'aller jaser avec M. Marceau. Vraiment, tu es un gars, tu es brillant, tu es intelligent, c'est émotionnel.
T'es très inspirant, Michel, puis j'invite les auditeurs à aller sur ta page web michelmambara.com pour avoir accès à ta biographie, bien entendu, savoir par où t'es passé, les conférences en santé mentale que tu fais, il y a des vidéos, et pour les chefs d'entreprise qui voudraient t'inviter, ou encore les professeurs, bon, je sais qu'il y en a qui sont en grève présentement, là, mais les professeurs qui seraient intéressés à te présenter à leurs étudiants dans les écoles, t'es disponible, puis on trouve tous tes renseignements là, chez michelmambara.com, michelmambara.com. C'est ton site web. Un gros merci. Je te souhaite de passer une belle fin de soirée. Puis j'ai déjà hâte de te revoir en studio devant moi pour que je puisse te serrer la
porte. Ça, là, c'est pas un one stand. Tu me rappelles, hein? Ouh, j'ai mis ça.
Mais faut pas que tu parles trop. Salut mon pote.
Merci.
Bye bye. Michel Nambaro. Salut.
Bye. Merci.
Passez une belle soirée. Le podcast s'en vient. Ça va être très intéressant. Puis je vous retrouve demain à 11h pour ce qui est de Marceau le midi. Merci beaucoup. Bye bye.
Marceau le soir. C'est payant d'écouter Boulevard 102.1.
Restez à l'écoute pour gagner votre paire de billets pour aller voir NoFX les 24 et 25 août au Parc Olympique à Montréal.
Boulevard 102.1. Votre pocheur d'étiquette.
Soyez fiers de faire partie de notre communauté de participants. Vous consommez plus de 10 cigarettes par jour ou vous connaissez une personne qui consomme plus de 10 cigarettes par jour, on a le parfait projet pour vous. Découvrez notre programme de parrainage, partagez les profits. Un seul séjour en clinique de 7 jours pour une indemnité de 3 000 $. Groupe disponible au mois de novembre, décembre ou janvier. Pour en savoir plus, rejoignez-nous au 1-833-611-2399 ou visitez notre site internet à gocineos.com.
Cineos Health. Pour un futur en santé.
La revanche, c'est ton resto-pub préféré. Mais as-tu déjà pensé à y faire ton magasinage des fêtes? Des jeux de société à tous les prix pour petits et grands, jeux de party ou de stratégie et conseillés par les plus fins connaisseurs. Beauport, Saint-Roch, Le Bourgneuf et en ligne. Boutique La Revanche.
Beaucoup de choses se disent. Mais qu'en est-il vraiment des offres du gouvernement dans les négociations avec les employés du secteur de l'éducation? En plus d'une hausse de salaire et d'un processus d'affectation des postes d'enseignants plus souple et plus rapide, ce sont 4 000 aides à la classe qui seront déployées dans 15 000 classes partout au Québec. C'est une proposition qui améliore de beaucoup les conditions de travail dans nos écoles pour continuer à offrir un enseignement de qualité. Nous gagnons tous à nous entendre. Un message du gouvernement du Québec.
Boulevard 102.1.
Y a-t-il ces matins où vous avez l'impression de faire du surplace, que rien n'avance? Heureusement, c'est juste parfait en tout temps chez Desharnais.
Et jusqu'au 15 décembre, obtenez une remise allant jusqu'à 100 $ à l'achat de 4 pneus Nokian Tires sélectionnés. Pour la tranquillité d'esprit en toutes circonstances, Nokian Tires, c'est un parcours exceptionnel. Détails et prises de rendez-vous en ligne sur desharnais.ca.
Pour le service, la mécanique et vos pneus, Desharnais, c'est juste parfait.
Fait que tu veux améliorer ta puissance? Ah, tu peux y aller avec le CrossFit avec un coach privé qui a fait l'armée? Ou tu peux passer au volant d'un VUS compact très, très puissant, le tout nouveau Dodge Hornet hybride rechargeable. Il y en a un qui est plus facile que l'autre, je te dis pas lequel.
Passez chez votre concessionnaire Chrysler Dodge Jeep et Ram pour découvrir le tout nouveau Dodge Hornet. Et vous pourriez obtenir jusqu'à 10 000 $ en remise gouvernementale à l'achat du modèle hybride rechargeable Hornet RT. Visitez Dodge.ca pour plus de détails.
Pour les débuts de soirée, le Cosmos a tout qu'un deal pour vous. La promo 50-50, c'est 50 % de rabais sur 50 % des plats du menu. Salade, pâtes, burgers et plus encore. Bien manger à moitié prix, c'est du lundi au vendredi de 16h à 18h dans vos deux restaurants Cosmos, sur le boulevard Laurier et le boulevard des Galeries.
Boulevard 102, la radio positive de Québec.
Moi, le retard des gens, c'est quelque chose qui me gosse au plus haut point. Là.
Ah, bref, on parlera pas de ça longtemps. Là, ça me tente, ces gens-là. Je suis plus capable.
Les comités de comédie musicale, organiser les balles de fin d'année.
Non. Non.
Quand on va parler de sport, là, ma gang de gros jambons, je suis capable. Hey, man, je suis plus capable.
J'ai une idée.
Moi, ce gang-là, je me tenais loin. Ça, ouais. Oh oui.
C'est pas vrai. On chiale des fois, mais juste quand ça vaut la peine. Boulevard 102.1. Tes sujets, ton rock, ta radio. En toute sobriété. Avec Maxime Lefebvre, animé par Catherine Bachand.
Bienvenue à ce deuxième épisode du podcast En toute sobriété avec Maxime Lefebvre. Bonjour Max.
Salut Kat.
Je suis très contente d'être ici avec toi aujourd'hui. Puis juste avant qu'on présente l'invité qui est avec toi aujourd'hui, qui t'accompagne, Max, tu tenais au tout début, quand on a commencé à parler ensemble du projet de ton podcast En toute sobriété, tu as dit Kat, il faut absolument qu'on fasse un épisode sur la codépendance. C'est super important pour moi. Explique-moi pourquoi.
Ben en fait, c'est que moi, c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à vraiment bien me rétablir pour faire les choses comme il faut, parce que j'ai finalement mis des mots sur soit une émotion ou ben quelque chose que je ressentais ou ben qui expliquait des gestes que j'avais fait dans le passé ou ben des actions que j'avais posées, le thinking que j'avais à ce moment-là peut-être. On dirait que quand j'ai découvert ça, ça fait « OK, c'est pour ça ». Ça a expliqué beaucoup de choses. Puis les gens autour de moi essaient toujours de t'aider. Ils veulent toujours te donner des solutions. Mais là, tu peux m'appeler si jamais. Puis là, dans ce temps-là, dis-moi-le. Mais je J'ai OK, mais je savais même pas quoi vous dire à ce moment-là parce que je savais pas ce que je vivais et pourquoi j'agissais de telle façon-là. Tandis que je trouve que la codépendance, moi, ça l'a vraiment éclairci à 100% les raisons de mes actions, puis pourquoi j'avais envie de boire des fois, puis pourquoi j'avais envie de consommer. Puis c'était vraiment de geler cette émotion-là. Mais la codépendance a comme tout ouvert ces portes-là, à vraiment bien me rétablir. Puis enfin, c'est ça, mettre des mots sur quelque chose. C'est quand tu cherches à comprendre, mais que tu n'as aucune façon. Puis quand tu veux dire quelque chose à quelqu'un...
Tu as besoin de nommer les choses.
Ouais, exact, hein? t'expliques quelque chose à quelqu'un, mais là, t'es comme, oui, mais tu sais, l'affaire, là, puis...
puis le truc, puis tu sais, mais c'est...
Ouais, mais voyons. Mais... ben là, c'est ça. Ben là, voyons, là, il n'existait plus parce que justement, ça m'a permis de mettre ces fameux mots-là sur les émotions que je vivais en dedans. Fait que moi, à partir de ce moment-là, là, ça a tout changé le reste de ma thérapie, mais de mon parcours jusque-là, jusqu'à aujourd'hui maintenant.
Parce que si jamais vous n'avez pas entendu l'histoire de Max, on vous invite à l'écouter l'épisode numéro 1, puis il t'explique le nombre de fois que tu es allé en thérapie, mais ta découverte ou tes apprentissages en lien avec la codépendance, ce n'est pas arrivé au début pour
non,
toi.
Non, du tout, ben, parce que j'en ai fait 5 au total. Les 4 premières étaient à la même endroit, puis je pense que, comme j'ai expliqué dans le premier podcast, puis en y repensant après ça, c'était plus une façon de m'évader quand j'allais là. C'était comme pour prendre un break. Ben, ma thérapeute m'avait dit ça, c'était comme, là, j'allais chillaquer un peu, je faisais sur le break. Alors que j'avais pas dans l'idée de m'en sortir vraiment au final. Surtout quand tu découvres la codépendance, tu réalises que, dans le fond, oui, j'arrêtais, mais c'était juste pour peut-être recommencer après. C'est quand j'étais trop fatigué, que j'avais plus d'argent, ben là, oh, je m'en allais en thérapie, c'était comme la porte de sortie, on va dire, tandis que la 5e, j'ai dit là, faut que je trouve une façon de m'en sortir. Ça marche pas. Fait que j'ai décidé de changer d'endroit. Puis il y a quelqu'un qui m'avait parlé de la Villa Saint-Léonard. Puis c'est drôle parce que dernièrement, pour ce podcast-là, j'ai ressorti mes livres. Puis j'ai comme, mais voyons, il y avait tellement d'ateliers différents sur tellement de sujets différents. Tu sais, c'est sûr que là, ça m'a ouvert tellement de mon esprit totalement avec tous les ateliers sur. Oui, il y avait les étapes, qui est une chose importante dans tout ce qui est anonyme, là, NAA, peu importe. Mais il y a d'autres choses aussi. T'es ta colère, ton deuil. La codépendance, la dépendance affective, comment bien se rétablir, tu sais. C'est comme, OK, c'est ça, là, c'est vraiment, c'est de même que je vais m'en sortir. Fait que ça m'a vraiment fait du bien. C'était dur au début parce que tous les jours, t'es brûlé de travailler sur toi-même de même.
Clairement.
Ça, j'avais jamais autant travaillé sur moi après la première semaine que les 4 autres thérapies additionnées ensemble, c'est sûr. C'était rushant, mais c'était pour le mieux. Fait que, tu sais, c'est vraiment, c'est un beau feeling.
Alors aujourd'hui, on va traiter de codépendance et j'aimerais ça que tu me présentes la personne que tu as choisi d'inviter à ton podcast.
Marie-Louise.
Oui. Marie-Louise.
Bonjour.
Bonjour Marie-Louise. Bonjour. Marie-Louise Bourassa qui est intervenante en dépendance.
Oui.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Maxime.
Ça fait plaisir.
Parce que je te le dis, je viens de le mentionner, mais 4, faut absolument qu'on parle de codépendance. Je te dis, c'est vraiment important.
Ben, oui.
Ça a été un point tournant pour moi. Il faut qu'on parle de ça. Et là, ben, moi-même, j'ai tellement hâte d'en apprendre davantage. Et en faisant mes recherches, puisque moi aussi, je fais mes recherches pour me préparer, je me suis rendu compte que je ne sais pas de quoi je parle, puis c'est complètement vague pour moi. Là. C'est un concept, la codépendance, que je réalise que je n'étais que dans les, je veux dire, stéréotypes, les jugements ou les histoires que je me raconte. Comment on définit la codépendance?
premièrement, la codépendance, c'est pas un trouble qui est répertorié. C'est pas une maladie. C'est pas dans le DSM-5, qui est le livre des problématiques en santé mentale. C'est un trouble psychologique, en fait, au niveau relationnel, au niveau de tes relations avec les autres. Comment tu vas interagir avec tes relations avec les autres? Comment tu t'es développé? Ça part de loin. La codépendance, ça part de ton noyau familial quand tu étais jeune. Puis, est-ce que tu venais d'une famille fonctionnelle, dysfonctionnelle? Normalement, une famille fonctionnelle, tu peux arriver à bien te développer de façon saine. Par contre, quand ton noyau familial est dysfonctionnel, c'est là que la codépendance vient s'installer tranquillement. J'aimerais ça avec Max qu'on fasse des liens avec lui, son histoire, des parallèles, avec toutes les explications que je peux apporter sur la dépendance. On peut commencer aussi avec définir qu'est-ce que c'est qu'une famille fonctionnelle, qu'une famille dysfonctionnelle.
Bien, commençons avec le noyau familial, parce que moi, c'est une des choses, notamment à la suite du premier épisode, dont plusieurs personnes m'ont parlé, qui ont dit, des fois, quand tu parles avec des gens qui ont des problèmes de dépendance, t'apprends qu'ils viennent d'une famille dysfonctionnelle, un peu tout croche, les parents séparés, qu'il y a peut-être eu de la violence, ou encore un historique de consommation, ce qui n'est pas du tout ton cas.
Non, exact. Puis c'est drôle parce que Marie-Louise m'a justement posé la question pour quand on se préparait un peu pour ce podcast-là. Puis j'étais comme, non, vraiment pas. Moi, ma famille était très fonctionnelle. des parents aimants et qui nous donnaient, mais qui nous apprenaient des bonnes valeurs quand même. T'sais, on n'était pas des enfants gâtés pourris. Je veux dire, mon père était absent, oui et non, dans le sens qu'il travaillait beaucoup parce qu'il montait sa business. Mais je veux dire, quand il était là, c'était un père aimant. Il est venu avec moi à l'aréna pour le hockey. Je veux dire, tu sais, j'ai manqué de rien. J'ai eu beaucoup d'amour, même eux avec leurs parents, eux autres, mes grands-parents. Belle relation. Fait que, il y avait vraiment rien qui aurait... Ben, le père à mon père, c'était un alcoolique. Mais on n'a jamais fait de lien, puis il est mort. J'avais 3 ans. Fait que, tu sais, je ne l'ai pas vu, mettons, quand j'ai dit mon grand-père, il buvait tout le temps, puis je le voyais. Je ne l'ai pas vu, ça, cette chose-là. Fait que, tu sais, c'est vraiment, oui, la famille fonctionnelle, standard, qu'on pourrait dire.
Mais est-ce que... Puis Marie-Louise, tu pourras le dire. Est-ce que toi, l'histoire que tu te racontes de ta famille, c'est qu'elle est fonctionnelle, mais que dans le fond, elle ne l'est pas?
Bon, dans ma tête à moi, c'est le lait à 100%.
Okay.
Ça serait l'image que j'aurais de ma famille, tu sais, c'est ça. C'est vrai, on parlait de ça dernièrement, en plus, par rapport à une autre famille qu'on voyait, tu sais, les enfants, ce qu'ils voient de leurs parents, c'est toujours la belle image, même s'ils entendent des choses sur leurs parents. Ben non, il a pas fait ça, ou non, c'est pas vrai, tu sais, fait. Mais oui, de mon image à moi, dans ma tête, je pense que oui, on était très fonctionnel, là, parce que j'ai manqué de rien, puis qu'il n'y a pas eu d'épisode d'alcool, de drogue, de chicane, de bataille ou
parce que, tu sais, c'est pas que je veux ramener ça à moi, mais je pense que souvent, quand on est enfant, soit qu'on idéalise ou on démonise nos parents, comme s'il n'y avait pas d'entre-deux, c'est soit un, soit l'autre. Puis à un moment donné, tu te retrouves que toi, tu as des enfants. Et là, peut-être que ta perception de tes parents change et que tu te rends compte qu'on fait ce qu'on peut.
Totalement. Avec
les outils qu'on a, tu sais, puis qu'on est parfaitement imparfait. Là, moi, j'ai toujours dit que j'ai gagné à la loterie des parents dans la vie. Là, j'ai eu les parents les plus extraordinaires au monde qui sont parfaitement imparfaits puis qui y ont fait ce qu'ils ont pu avec le bagage qu'ils avaient. Tu sais. Jusqu'à quel point la codépendance part toujours de la cellule familiale?
Bien, on a le bel exemple avec Max, parce que Max vient d'une famille qui est totalement fonctionnelle. Fait que probablement qu'il y a eu des événements dans sa vie qui l'ont amené à consommer. Puis qu'au final, il a grandi, il a pris de la maturité, puis il s'est rendu compte que certains éléments de la codépendance venaient le chercher. C'est peut-être au niveau de son estime de lui, c'est peut-être au niveau de ses perceptions. Est-ce qu'il avait l'habitude de voir tout noir, tout blanc, d'aller all-in, une recherche de sensations fortes? Fait que, tu sais, peut-être que Max est parti différemment que... pas la majorité, mais que beaucoup de personnes ont pris avec des dépendances, la codépendance, tout simplement. Okay.
Toi, Max, est-ce que tu sais d'où ça part?
Non, pas encore.
Pas encore.
Mais je dirais que je suis quelqu'un qui avait besoin toujours, oui, un peu d'adrénaline. Tu sais, j'ai joué au hockey jusqu'en France, semi-professionnel. Je veux dire, ma vie tournait autour de ça, vraiment. Je me suis toujours fait dire quoi manger, quand m'entraîner, c'est quoi l'entraînement qu'il faut que tu fasses, quand tu pratiques. Fait que, tu sais, j'étais guidé, j'avais un moule pareil, un genre de structure de fait autour de moi depuis que je suis jeune. Fait que quand ça, c'est vraiment là, je pense que c'était juste, ça me permettait de retenir un peu ce qu'il y avait en dedans de moi. Mais une fois que là, j'ai comme pris ma retraite, puis je suis revenu à Québec, on dirait que là, il n'y avait plus rien qui me retenait. Fait que là, le côté plus anxieux peut-être, anxieux de performance, de vouloir être le meilleur, le plus beau, il est comme vraiment plus ressorti parce que là, j'avais plus de structure. Là. C'était comme, je t'ai laissé à moi-même, bon, qu'est-ce que je fais? Là? Ben, je retourne à l'école, mais je m'en vais en quoi? Fait que je retourne dans un bar.
C'est une perte de repère à ce moment-là.
Ouais, vraiment. Là, quand t'es habitué que tout soit structuré, puis moi, dans ma vie, encore aujourd'hui, j'ai besoin de structure pour rester droit sur le droit chemin, puis c'est parce que c'est sécurisant pour moi. Tu sais, je sais, c'est drôle, là, juste faire le ménage, classer mes affaires, là, c'est comme moi, ça me fait du bien en dedans. Le monde ne comprenne pas, genre, voyons, plier du linge. Hey, tu savais comment j'aime ça, plier du linge. Genre, mais c'est des niaiseries, mais pour moi, ça comble quelque chose en dedans.
Je peux t'inviter dans ma salle.
Oui.
Il y a des gens qui vont vouloir.
On me le dit souvent, ouais, c'est ça, vous m'écrirez sur mon podcast si vous avez besoin. Là.
mais ce que tu dis là, moi, je me retrouve là-dedans parce que moi, je suis une personne anxieuse. Alors, quand les choses sont ordonnées et qu'à la limite, elles sont prévisibles, c'est plus simple pour moi aussi de gérer mon anxiété.
Oui, exact.
Alors,
tout dans ma vie maintenant est comme ça, puis c'est ce qui permet de garder ma sobriété, mais sans, je trouve que je fais pas d'effort pour la garder, contrairement à avant, où est-ce que, mon Dieu, que c'était tough, j'essayais de rester, mais c'est parce que je le voulais pas tant, dans le fond, à l'intérieur de moi, tandis que là, j'ai les outils pour, puis je m'écoute plus aussi.
Donc là, c'est-tu plus difficile de garder ta structure ou ta sobriété?
Je te dirais que ça va ensemble, parce que ma structure, je suis capable de la garder facilement maintenant parce que je m'écoute beaucoup plus. Puis je pense plus à moi, ce que j'aime, que ce que les autres vont penser. Fait que normalement, ça se fait tout seul aussi. Tu sais, mon travail, mon entraînement, ma meal prep, préparer mes repas, c'est des choses que je fais. Fait que comme ça, si le soir, ben, il arrive un empêchement ou quoi que ce soit, ben, je suis pas stressé de dire ah, là, j'aurais pas mangé. Ah, là, okay, je peux... Tout se fait comme naturellement aussi. Fait que c'est pour ça que ma sobriété va de mise de même. C'est drôle, on parlait de ça juste avant le podcast tantôt. J'ai besoin, moi, d'avoir des choses dans la vie. C'est comme là, ma job, avant, j'étais juste charpentier. C'est le fun, c'est différent parce que les jobs sont différents, sauf que ça reste que c'est tout le temps la même chose. Tandis que là, ben là, je fais de la vente de toiture. Mais je vais aller aider les gars un peu à décaper. Je vais ensuite aller porter du stock s'ils en ont besoin. Je vais m'occuper de l'horaire, je vais m'occuper de la gestion du matériel. Fait que, écoute, une journée, ça va tellement vite, mais j'ai pas le temps de réfléchir, ça se fait tout seul, puis... Je suis dans l'action. Moi, j'ai besoin d'être dans l'action parce que sinon, c'est quand je réfléchis trop que mon intelligence mal placée le ressort. Là. Le petit démon, là, il embarque tranquillement. Puis là, fait que c'est ça. T'sais, j'ai beaucoup d'imagination. Ça peut être bon des fois, mais dans des situations où j'ai trop de temps pour penser, puis que là, j'ai trop de temps libre, c'est là que ça peut être dangereux. Là.
Marie-Louise, est-ce qu'on a tous, dans le fond, une codépendance quelconque?
Hey, c'est une bonne question. Moi, je serais portée à dire que oui, parce que je n'ai pas de problème de dépendance, mais je me reconnais dans certains aspects de la codépendance et j'arrive à voir certaines personnes aussi dans la qu'est-ce que c'est que la codépendance. La codépendance, là, elle a un noyau central, elle a 4 éléments, OK? Elle a tes perceptions. Comment tu perçois, toi, les choses? Est-ce que tu perçois ça tout le temps dans un gros high, hyper positif, ou tu le perçois tout le temps dans le négatif? Est-ce que tu n'arrives pas à faire ta part des choses quand tu reçois une information, tu prends tout personnel ou tu mets ça sur la faute de la planète entière? Fait que sans même avoir grandi dans un climat dysfonctionnel, tu peux peut-être développer des petits traits de par l'école, tout simplement, de par tes relations sociales, de par qui tu es. L'anxiété fait partie de toi. Fait que c'est pas de la faute à tes parents si tu as une anxiété, si tu as de l'anxiété à l'intérieur de toi. Ensuite de ça aussi, ça va dépendre de ton estime de toi. Si, tu sais, on est tous avec la personnalité, avec qui qu'on est, dans le fond. Par contre, il nous arrive des choses dans la vie qui fait en sorte que ton estime de toi est toujours fragile puis qu'elle peut être brimée un petit peu. Tu sais, Max, tantôt, il parlait de son hockey qui a été une grosse sphère importante de sa vie, qui allait chercher beaucoup de, ben j'imagine, là, de gratification dans ça. C'est super... c'est cool, là,
être un joueur.
Ben oui, voilà.
Ah oui, oui, ça paraît bien, surtout au Québec, le hockey, c'est comme le sport. Fait que c'est sûr que de performer là-dedans, c'est sûr que c'est valorisant.
Puis là, oups, je reviens au Québec, ça s'est pas fonctionné comme je voulais. Mon estime de moi, ma façon de me percevoir à moi, elle vient d'en prendre un coup. Puis c'est peut-être qu'est-ce qui s'est passé au niveau de Max aussi, je spécule. Mais là, je me vois plus comme un super joueur de hockey. Je me vois comme un pas bon, par exemple, qui n'a pas réussi sa carrière, qui doit revenir ici au Québec, qui, en plus, n'a plus d'emploi ou qui doit changer de travail. Tu sais, qui passe de là à là, par exemple. Fait que ton estime de toi, elle peut beaucoup, beaucoup changer. Ce qui peut amener aussi un besoin de contrôle, de tout contrôler. Hein, j'ai pas contrôlé cette sphère-là dans ma vie. Fait que là, maintenant, là, je vais essayer d'aller chercher du contrôle dans mes relations. Je vais essayer d'aller contrôler mon boss, mes amis, mes relations personnelles, etc., etc., pour sentir que je l'ai encore, l'affaire, là, ou que, tu sais, je tiens encore quelque chose dans ma vie. Puis, finalement, ça t'amène une maturité émotionnelle. OK? Les personnes qui ont une dépendance, puis tu me parleras de toi après ça, Max, quand la dépendance, elle s'installe, il y a un certain frein émotionnel qui se passe. Pourquoi? Parce que là, c'est plus Max, c'est plus Marie, c'est plus Catherine qui gère vraiment qui tu es, ton évolution. C'est la dépendance, c'est ta consommation qui est au cœur de ton évolution. Mais elle ne te fait pas évoluer vers le positif. Non. Hein? Elle ne t'amène pas à être dans le moment présent, à vivre tes émotions, à parler, hein, Max, quand tu es dans la dépendance, parler, mettre des mots, comprendre ce que tu vis, ce n'est pas une réalité qui se passe. C'est plus la peur, de la colère, du ressentiment, etc., etc., que tu ressens. Fait que tu as comme un frein. Quand tu arrêtes de consommer, de façon imagée, tu reprends ton évolution émotionnelle où est-ce que tu l'as arrêté. Donc, ça fait en sorte que... je ne sais pas trop où m'en aller avec ça, mais c'est le noyau central de la dépendance. Ça fait en sorte que des fois, c'est difficile de... Il peut arriver des événements dans ta vie qui ont fait en sorte que la codépendance s'est installé dans ta vie?
Bien, c'est parce que juste que les étapes que tu viens de décrire là, tu sais, un changement de situation, oui, des trucs comme ça, tu sais, c'est le genre de choses qui arrivent puis pas aux athlètes professionnels nécessairement, là, monsieur, madame, tout le monde, que ce soit un déménagement, même les enfants, quand t'es jeune, tu dois changer d'école peut-être parce qu'il y a eu un déménagement, oui, tu sais, séparation dans la famille, des choses comme ça, ou, tu sais, là, on faisait le parallèle avec le sport, mais ça peut être au boulot, que tu avais choisi un domaine dans lequel tu voulais étudier, puis pour quelque raison que ce soit, tu dois changer. Là, toi, tu as identifié que c'est le moment que tu reviens au Québec après ta carrière semi-professionnelle en Europe. À ce moment-là, c'était le manque de structure pour toi.
Ben oui, parce que tu cherches, comme elle dit, c'est... Oui, c'est sûr que je pensais que j'allais faire ça plus longtemps. J'ai réalisé que c'était pas assez payant en France. Il aurait fallu que je fasse des sacrifices de quand je reviens ici l'été, il faut que je travaille. Là, je remonte là-bas. Puis vu que je suis né en France, bien, j'avais le passeport. Fait que j'aurais pu aller jouer dans d'autres pays. Mais tu sais, là, c'est le sacrifice de 5-6 ans de gagner des salaires de crève-faim un peu. Alors, revenir travailler ici, repartir une saison. Puis je pense que ça me tentait juste pas de le faire. Fait que c'est sûr que c'est décevant quand. Tu sais, mon père, il a fait ça pendant 10 ans, lui, là-bas, avant de revenir. Moi, j'avais l'intention de faire au moins ça aussi, t'sais. Fait que c'est sûr que, encore là, tu te compares un peu, veux pas. Puis moi, je suis beaucoup dans l'anxiété de performance. Puis j'ai réalisé après, je savais même pas ça voulait dire quoi à ce moment-là. Je savais même pas que ça existait. Mais j'ai réalisé après de. Tu sais, moi, je veux pas juste être là pour être là. Je veux être le meilleur dans tout, là. T'sais, mon podcast, moi, je veux que ça soit le plus écouté au monde. Là, aujourd'hui, je suis plus dans cette mentalité-là, mais avant, c'est ça que je me serais dit. Là. Puis là, j'arracherais à aller voir à tous les jours comment de vue, comment. Tu sais, je me serais mis tout autour de la performance. Là. Walker, c'était ça. Avec les filles, c'était ça. T'sais, d'avoir la plus belle relation possible, contrairement aux autres. Nous autres, ça va être bon, on va avoir des enfants, on va avoir. T'as peu, fait une semaine, t'as connu. Fait que, moi, il y a beaucoup de mes relations que ça a été ça de. Tout fonctionne tout de suite parce que je dis que je voulais faire comme mes parents, avoir un peu la même vie là, avec ma soeur. Puis, fait qu'on dirait que je mettais toutes mes œufs dans le même panier pour justement tout mettre là, comme Marie-Louise disait, de vouloir contrôler ça parce que le reste, je l'avais pas contrôlé. Ben, fait que dès qu'il y avait quelque chose qui marchait pas dans ma relation, je l'arrêtais parce que ça marchait pas, là, ça sera pas la bonne. Hey, faut que tu te laisses du temps dans une relation. C'est ça, aucun bon sens. C'est, mais c'est ça. Moi, j'étais tout de suite. Pis c'est pas pour rien que je me suis fait tatouer sur mon poignet le mot patience. C'est que c'est le point de ma vie à changer, vraiment, à améliorer.
Est-ce que je comprends que dans le fond, autant la relation que le hockey, tout ça, ça venait toucher ton identité propre pour revenir à ce que tu disais. C'est l'identité que toi, tu t'étais forgé par rapport à toi-même.
Ah, 100%. J'étais quelqu'un de très intense, mais c'était pas une intensité contrôlée. Tu sais, dans ce cas-là, je vais l'être, mais c'est juste que je vais mettre beaucoup d'efforts dans quelque chose qui me tient à cœur. Mais d'oser, je le ferais pas à n'importe quel prix. Dans ce qu'avant, j'aurais tout fait pour réussir, advienne que pourra, puis peu importe ce que j'ai à faire, là, quitte à même blesser des gens autour. Moi, mon but, c'est ça. Okay. Puis c'est ce que je veux. Fait que oui, j'étais quelqu'un de très intense. Là, j'ai appris à doser cette intensité-là, puis mieux la placer aussi, mieux la contrôler. Tu sais, l'entraînement, c'est pas mieux de se jeter à 4 heures par jour, 6 jours semaine. Au bout d'un temps, soit tu vas être fatigué, tu vas te blesser, ça t'entrera même plus, tu le feras plus pour les bonnes raisons un peu. Là. Fait que c'est toujours de garder ton objectif en tête, mais de rester là-dessus.
C'est spécial que tu dises ça parce que j'avais déjà eu une discussion avec quelqu'un qui avait eu la chirurgie bariatrique.
Ouais.
Puis tu sais, je pense que des personnes qui sont outre-mangeurs, ça peut être justement, c'est une dépendance.
Il y a des meetings pour ça même.
Ouais, c'est ça. Anonyme. Puis tu sais, lui, il dit, OK, c'est beau, la chirurgie a bien fonctionné, mais le côté de la dépendance ne m'a pas quitté.
Les schémas de pensée.
Et là, c'est parti, ça s'est juste transféré sur autre chose.
Oui, tout à fait. Tout à fait, oui. Et puis c'est la même chose dans la dépendance aussi, au niveau des substances. C'est facile de faire un transfert de dépendance. Je pense que ma sobriété, elle va bien. Je pense que je suis en contrôle, tu sais, puis je le dis souvent, ton rétablissement, c'est léger comme exemple, mais c'est comme une recette de sauce à spaghetti. Hein? Je pense que j'ai les bons ingrédients dedans, que je la contrôle. Par contre, je la brasse pas, fait que ça colle tout dans le fond. Puis pour faire le parallèle avec le fait que je compulse dans d'autres choses.
Donc, tu es peut-être sobre.
Et d'alcool, par exemple.
Oui,
voilà. Tu es abstinent, mais tu n'es pas sobre.
Et voilà.
C'est ça qui
dit. Oui, OK.
La sobriété, c'est quand on peut voir Max un peu présentement dans sa sobriété. T'sais, il ne fait pas juste arrêter de consommer ses substances de choix. Il est bien dans son rétablissement, ça l'évolue, il fait des efforts, il se prend conscience conscience de qu'est-ce qui fonctionne pas, de qu'est-ce qui fonctionne à chaque jour, et etc., etc., ce n'est plus rendu difficile de ne pas consommer, c'est son mode de vie. Par contre, tu peux être abstinent pendant 10 ans de toute ta vie, dans le fond, ou une longue période de temps, et ne pas être heureux. Pourquoi? Fine, je ne consomme plus parce que ma famille m'a demandé d'arrêter, parce que j'allais perdre mon travail, j'allais perdre ma maison si j'arrêtais pas de consommer, mais je suis malheureuse ou malheureux dans le fait de ne plus consommer. Et je fais un petit transfert de dépendance. Ça peut être dans la nourriture, ça peut être dans les jeux en ligne, ça peut être, bien, je consommais de l'alcool, à cette heure, je fume du cannabis à tous les soirs. Mais je ne prends plus d'alcool, fait que je suis abstinent hein, de ma substance de choix. Ça peut être les achats compulsifs, la sexualité. Hein, j'en demande beaucoup, beaucoup, beaucoup à mon partenaire parce que dès que je vis quelque chose de difficile, c'est la seule façon que j'ai de me libérer de mes émotions. Ça peut être dans les... Tantôt, Max, tu parlais des filles. Ça peut être dans mes relations amoureuses aussi. Là, je suis devenue... où j'ai des comportements de dépendance affective. Hein, je suis un petit Tarzan. Là, je passe d'une liane à l'autre. Sauf que quand je tombe entre deux lianes, j'ai un gros malaise émotionnel à l'intérieur de moi. Fait que c'est ça, ça peut...
Ben moi, c'était ça, parce que c'était la... J'étais allé en thérapie parce que j'avais un problème de cocaïne. Puis ça, les deux premières, tout même, je dirais, les quatre premières, c'était pour ça. Parce que j'acceptais jamais que je pouvais plus boire d'alcool. Fait que moi, dans ma tête, bon, je consomme plus de cocaïne. Fait que c'est correct. Là, je recommençais à
qui
boire
un
peu
tranquillement. Qui est ta substance de choix à ce moment-là.
Ouais, exact. Fait que tu sais, je suis comme, oh, c'est correct. Fait que là, tu recommences à boire un verre de temps en temps, mais tu consommes pas de drogue. Fait qu'il y a pas de problème, mais c'est... éventuellement, comme de fait, il arrive une soirée où est-ce que t'es juste pas avec le bon monde, avec ton monde avec qui t'étais avant, puis là, ben, bam, tu retombes, tu brosses solide, puis là, ben, tu reconsommes parce qu'on t'en offre, parce que tout le monde s'en offre là-dedans, fait que là, paf, tu retombes.
Puis qu'est-ce que ça fait, Max, l'alcool, quand tu consommes de la cocaïne?
Ben, moi, ça me détend, l'alcool, là, ça me fait genre, ben, je suis moi, mais, parce que moi, la cocaïne, je prenais pas ça pour le boss. Il y en a qui prennent la drogue pour vraiment le gros feeling qu'ils vont imaginer des affaires. Tout. Moi, je faisais juste rencontrer plus de monde, je parlais plus, j'avais plus de plaisir. Fait que...
T'es devenu un lubrifiant social, finalement.
Exact, c'est exact. Moi, je suis. Tu sais, déjà, ma personnalité
est normale. Les barrières.
Ouais, vraiment, moi, j'ai plus de problème. Ça, c'est tout le temps ça qui arrive. Quand je parlais avec un de mes amis la dernière fois, puis on disait, nous autres, quand on consommait, puis qu'on voit, là, on devient millionnaire. Puis, on a aucune idée où on s'en fout complètement de ce qui va arriver demain, c'est là, là. Fait que, tu sais, il arrivera ce qui arrivera. On sait qu'on va avoir des conséquences, mais on s'en fout complètement. En ce moment, c'est on donne à tout le monde, on consomme, puis on, tu sais, c'est drôle à dire, mais on n'a jamais autant vécu le moment présent, le faux moment présent, là, que là, parce qu'on profite de la minute près à là. Alors, tu consommes, tu bois, t'es avec du monde, mais that's it. Fait que, tu sais, vraiment, t'as plus d'inhibition, il n'y a plus de problème. Ouais.
C'est ça.
C'est vraiment. Ben c'est ça le danger, c'est que clairement, il va arrêter un moment parce que tu n'en auras plus de buzz hein, quand tu vas te lever le lendemain. Fait que c'est pour ça que des fois, le monde, ils font ça pendant deux, trois jours. C'est parce qu'ils savent que, moi, d'après moi, c'est, je pense, c'est qu'ils savent que quand ça va terminer, ça va faire mal.
Okay.
Fait que,
parce qu'il y a une forme de liberté, dans le fond, quand tu consommes. Ouais, la liberté d'être, de dépenser, d'obligation. Tu es complètement libre.
Oui, 100%, 100%.
Genre de liberté, est-ce qu'on réussit à trouver ça à jeun? Ou abstinent?
Ben c'est que tu apprécies plus chaque chose. Tu sais, là, on sortait en bord, t'apprécies pas t'asseoir au bord, c'est devenu routinier. C'est même pas, c'est juste parce que ton corps en a besoin, ta tête en a besoin. Fait que oui, après, une fois, mais je pense que les premières semaines, non, c'est plus dur un peu parce que tu essaies, tu vas avoir peur de plus être le fun d'un bar, avec tes amis plus parce que tu sors plus, là. Mais ouais, c'est ça, je pense que t'as peur d'avoir peur, de genre, être capable d'aimer comme t'aimais avant parce que c'est plus pareil. Tes relations, même sexuelles, ça sera pas pareil. T'sais, la première fois que t'as refait l'amour avec une fille,
à jeun,
quand ça fait des mois que tu consommes puis que tu rencontres du monde de consommation, fait que c'est complètement différent. T'sais. Fait que tes relations, même au travail, t'es, je venais ici, j'étais fatigué, là, t'as toute ton énergie, c'est bien plus fun, au contraire. Je pense que, mais oui, les premières semaines sont difficiles parce que tu revis. Des premières fois à jeun, mettons ton premier Noël à jeun, la première fois que tu rentres travailler, ta première semaine complète à jeun, c'est niaiseux, mais tu sais, j'étais rendu au point que c'était pas tous les jours, loin de là.
Mm-hmm.
Fait que je pense que t'apprécies plus chaque petite chose de ta vie que t'avais négligée dans le passé ou du passé du temps avec ta famille. Aussi, là, tu sais, nous autres, à tous les dimanches, on mange ensemble. Puis je me suis dit, ça, j'arriverai jamais que je vais manquer ça, puis tu sais.
Puis tu l'as manqué.
Ouais, j'en ai manqué, là. Je disais, justement, au game de hockey, c'est la seule place où j'avais jamais consommé de ma vie puis que je voulais pas consommer avant de jouer au hockey parce que pour moi, c'est comme ma religion, le hockey. Puis avant de rentrer en thérapie la première fois, là, j'ai joué une game d'hockey que j'avais consommée. Fait que tu sais, j'étais comme, hey, tu dis, non, mais si tu mets des limites, mais tu dépasses tes limites, moi.
Okay.
J'ai scoré 3 buts. Fait que j'étais comme, tu sais, comment tu penses, t'as un petit crosseur dans ta tête, là, et comme, ah, tu vois, finalement, c'est pas si pire.
T'as valorisé ça.
Ouais, hey, c'était n'importe quoi, là. Tu sais, j'ai le cœur qui palpitait, j'étais, hein, ça filait pas pantoute, là. Jésus, t'étais chanceux, là. Parce que j'en connais du monde qui aurait pu crever de même. Là. Tu sais pas, là, de l'adrénaline, là, t'as ça dans le corps, tu fais une activité physique, hey, j'aurais pu péter là, là. J'avais pas pris une grosse quantité, mais quand, juste assez pour te faire peur. Là, juste te dire, hey, c'est innocent de faire ça. Là. Quand tu t'es mis des limites, de dire, jamais avec ta famille, jamais walker. Puis j'ai réussi à pas le faire avec ma famille. Quand même pour les soupers, mais tu sais, combien de fois j'étais arrivé le soir que j'étais magané, que je suis juste descendu dans ma chambre, j'ai pas dit salut à mes parents parce que j'avais honte, puis tu sais que. Mais c'est ça. Tu dépasses tes limites quand t'es en consommation. Tes valeurs.